Bienvenue au congrès virtuel de ST 2016. Je suis Noël Cassan, votre hôtesse ce soir. Avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Notre conférence ce soir s'intitule EFT et procrastination. Six bonnes raisons pour ne pas passer à l'action. La procrastination, un mot un peu nouveau qui désigne un phénomène vieux comme le monde. Le fait de remettre à demain ce qui aurait dû être fait hier. Vous arrive-t-il de vous lever avec les meilleures intentions du monde pour commencer, avancer, voire terminer complètement tel ou tel projet? La déclaration d'impôt, un nouvel article pour votre blog, finir de trier le placard et donner enfin tous ces vêtements que vous ne porterez de toute façon jamais. Mais la journée passe et les imprévus de la vie, plus ou moins prévisibles, font que le soir, vous n'avez pas arrêté et pourtant, tout reste à faire. Au lieu de sombrer dans la culpabilité ou le découragement, écoutez plutôt notre conférencière ce soir. Elle est réalisatrice en développement personnel et professionnel, et en accompagnant ses clients, elle a pu constater que la procrastination n'est jamais un problème en soi, mais plutôt un symptôme de quelque chose qui se joue sur un plan plus profond. Afin d'aider ses clients, et aussi pour améliorer ses propres tendances à la procrastination, elle a identifié ce qui se cache derrière cet obstacle à la réussite, et c'est ce qu'elle va partager avec nous ce soir. Vous la connaissez maintenant, c'est elle qui est à l'origine de ce merveilleux congrès virtuel EFT. Et même si on ne la présente plus, c'est une grande joie pour moi de vous présenter Maria Hanel, qui est avec moi maintenant. Bonsoir Maria.
Bonsoir Noël. Merci pour cette présentation. C'est à chaque fois un bonheur renouvelé de faire ces conférences lors du congrès virtuel EFT.
Alors Maria, pourquoi cette conférence sur la procrastination?
Alors, comme tu as dit, je suis moi-même ce qu'on peut appeler une pro de la procrastination. Effectivement, j'ai eu ces tendances et je ne veux pas dire que je sois totalement guérie.
Mais on ne peut pas le dire.
J'ai trouvé des clés. Mais c'est aussi un problème très courant que je rencontre avec mes clients et on me demande souvent, aussi dans des événements, pas forcément mes clients, qu'est-ce qu'on peut faire avec le EFT contre Samaria? Qu'est-ce que je peux utiliser comme phrase pour vaincre cette procrastination qui m'empêche de réussir, d'accomplir tel ou tel projet? Alors, voilà, je me suis dit que c'était un bon sujet et qu'il faut en parler. Alors, la fausse bonne idée, comme disent mes enfants, que j'ai beaucoup essayé, c'est de me mettre la pression. Longtemps, j'ai pensé que si seulement j'arrive à me discipliner, si seulement j'arrive à me mettre la pression un peu plus, je vais y arriver. Et en fait, à force d'essayer, je peux vous le dire, j'ai testé pour vous, ça ne marche pas. Mmh. Bon, pour vraiment en être sûr, de temps en temps, j'essaye de nouveau. Juste pour vérifier. Mais ce que j'ai envie de vous partager avec vous aujourd'hui, c'est d'autres clés. Comment se libérer justement de cette culpabilité que provoque souvent la procrastination. Et toi, Noël, par exemple, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une to-do list pas douce du tout, long comme le bras, et le soir, tu t'es dit, oh là là, mais où est donc passée la journée? Et comment tu te sens dans ces moments-là?
Alors, normalement, ça m'est pas peut-être arrivé, ça m'arrive régulièrement, j'ai des to-do list, et puis souvent, à la fin de la journée, ben voilà, il me reste tellement de choses à faire que je me sens pas bien, je me sens... Avec énormément de pression, de la culpabilité, effectivement. Je me sens impuissante parfois. Je me dis, mais j'y arriverai jamais. Du découragement.
Oui, c'est ce qu'on me rapporte souvent. C'est cette culpabilité, cette honte aussi. Et peut-être la tendance à se comparer à d'autres, à se dire, ouais, mais ça a l'air tellement facile pour un tel ou une telle. Eux, ils arrivent à accomplir tant de choses. Et je pense que ça rejoint aussi une certaine illusion de toute puissance. Tu en avais parlé dans ta conférence sur la culpabilité, je crois que c'était pendant le congrès 2014.
Oui, la culpabilité et la toute puissance, oui.
Oui, la culpabilité qui est en fait générée par cette illusion de penser que c'est à moi de tout faire et je suis en réalité capable de tout faire si seulement... Patati, patata, ces obstacles n'étaient pas là. Donc, la tendance première à noter, c'est que lutter contre la procrastination elle-même, ça ne sert à rien, en réalité, parce que la procrastination n'est pas le vrai problème. La procrastination n'est qu'une manifestation d'autre chose et en réalité, elle est là pour vous protéger de quelque chose. Et à un moment donné dans votre vie, peut-être dans la prime enfance, c'est souvent là que ça s'installe, hein, cette procrastination, cette façon de remettre à plus tard, ça a été la meilleure stratégie que vous puissiez trouver sur le moment. Alors, bravo vous et merci à la procrastination. Mais maintenant, dans votre vie d'adulte, dans votre vie active, peut-être qu'il y a une autre stratégie qui serait plus productive.
La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce qui pourrait être fait tout de suite. Et c'est vrai que quand on a cette façon de penser, ne pas y arriver nous fait ressentir beaucoup de culpabilité. Et c'est vrai que ça ne fait pas avancer tellement les choses, sauf de rajouter de la pression à la pression. Mais en même temps, il y a tellement à faire. Et surtout quand on est à notre compte, ou en profession libérale, ou en auto-entrepreneur, Maria. Enfin, en auto-entrepreneur, pas forcément, mais en tout cas...
Oui, quand on est ce qu'on appelle un entrepreneur de cœur, quelqu'un qui veut vivre de sa passion, qui veut faire du bien aussi dans le monde, faire une différence. C'est vrai, on a beaucoup de casquettes à porter, on en a parlé dans d'autres conférences. Alors, justement, pour les exercices qu'on va faire ensemble pendant cette conférence, j'aimerais que vous notiez tout de suite 3 choses où vous avez du mal à passer à l'action.
Ça s'adresse aussi aux particuliers, Maria, parce que là on parle des professionnels, mais j'imagine que tout particulier peut aussi faire cet exercice.
Tout à fait. Tu as mentionné en introduction un élément sur lequel beaucoup de Français, en tout cas, sont en train de procrastiner, avec brio en ce moment, la déclaration d'impôt.
Oui, ou le rangement des placards.
Oui, aussi. Donc, prenez un crayon et une feuille de papier, votre cahier du congrès virtuel EFT, et notez 3 projets, enfin 3 choses où vous avez du mal à passer à l'action. Alors justement, ça peut être un projet professionnel ou administratif, ou peut-être quelque chose dans votre vie familiale ou dans votre maison. Et si vous pouvez mettre aussi quelque chose d'un peu plus personnel, quelque chose qui concerne vraiment votre personne, une mauvaise habitude que vous aimeriez transformer, par exemple, peut-être vous lever plus tôt le matin, faire plus de sport, changer votre alimentation. Ça aussi, ce sont des choses qu'on sait qu'il faudrait faire, mais ça vient pas. Alors justement, pour chacun de ces projets, vous pourriez marquer la phrase, et je vous encourage fortement à le faire, « Je devrais vous insérer votre projet, mais je n'y arrive pas. » Donc, « Je devrais prendre meilleur soin de mon corps, je devrais me coucher plus tôt le soir, mais... » Je n'y arrive pas. Et pour chacune de ces phrases, évaluez votre résistance à passer à l'action. Alors là, on va noter entre 1 et 10. Et 1, ça serait, c'est facile, c'est comme si c'était fait. Et résistance à 10, ça voudrait dire que ça bloque complètement. Ça fait des semaines, des mois, voire des années que ça dure. Et je ne peux pas m'y mettre. Voilà, je vous laisse noter ces phrases. Donc, je devrais... ceci, cela, votre résistance entre 1 et 10. Et vous pouvez aussi noter juste quelques mots-clés si, par cas, ça vous provoque une émotion. Peut-être que ça vous rend triste, ça vous met en colère, ou une sensation. Quand vous pensez à ce placard qui n'est toujours pas rangé, peut-être que vous avez l'impression d'avoir une tonne de briques sur les épaules quand vous voyez mentalement le placard. Il peut y avoir aussi des pensées qui se présentent. Peut-être que vous entendez la voix de votre mère, votre père, qui dit « Ah, de toute façon, tu finis jamais rien. » Ou « C'est comme mon père, lui non plus, il finissait jamais tout ce qui commençait. » Ou des réactions. « J'ai envie de quitter la pièce, il faudrait que je déménage. Je vais acheter une nouvelle voiture plutôt que de vider le coffre. Enfin, » je ne sais pas ce qui vous vient, mais ça peut être des réactions de ce genre. Donc voilà, Noël, est-ce que tu as noté quelques phrases clés? On ne va pas forcément les partager, mais pour l'exercice qui va suivre... ça peut être intéressant pour toi.
Oui, écoute, moi, s'il y a un sujet actuellement où je procrastine trop, c'est j'aimerais faire des méditations tous les jours. Et voilà, j'ai des très bonnes excuses pour ne pas le faire. J'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire. Il arrive la fin de la journée, comme tu dis, et je m'aperçois que j'ai toujours pas pris une heure pour pouvoir faire des méditations.
Mm-hmm. Très bien.
Donc, je dirais que la procrastination...
C'est un très bon exemple, effectivement. Alors, si vous n'en avez pas trouvé exactement 3, c'est pas un problème. Et pour les personnes très productives qui en auraient peut-être noté 10 ou plus, je préfère vous prévenir tout de suite, on ne va pas forcément pouvoir les traiter toutes dans cette conférence. D'accord ? Voilà, pour les perfectionnistes et les hyper productifs parmi nous, je préfère poser ce cadre. Alors, à présent, je vous invite à poser votre feuille, mettez-la de côté, prenez une grande inspiration, respirez et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas du tout obligé d'agir maintenant. Je vous ordonne même de ne pas agir pour l'instant, ok ? Alors posez-vous, buvez un peu d'eau, détendez-vous et écoutez juste ce qui va suivre. Parce que si vous n'êtes pas encore passé à l'action, c'est que vous avez sûrement une, voire plusieurs, bonnes raisons de ne pas le faire.
Plein de bonnes raisons de rien.
Oui. Alors, on va faire le tri ensemble. En vrac, j'ai envie de vous présenter les bonnes raisons, les plus ou moins bonnes raisons, que je rencontre le plus souvent dans le travail avec mes clients. Alors, celui que je vais citer en premier, c'est que si vous passez à l'action sur tel ou tel projet, eh bien, vous pourriez échouer. Et ça, ça peut évoquer la peur du ridicule. C'est beaucoup plus confortable pour certaines personnes de rester au stade de rêve que de confronter votre projet à la réalité et peut-être vous rendre compte que non, ça ne marche pas ou ça ne marche pas autant que je voulais. Il peut y avoir des pensées aussi comme « qui suis-je pour créer un programme en ligne ?»« Qui suis-je pour monter un site internet ou pour accompagner des personnes ?» Parce qu'il y a déjà tellement de personnes qui le font, pourquoi créer un projet de plus. Donc ça, ce sont différentes facettes de ce qu'on peut appeler la peur de l'échec. Et sa petite copine, cette peur de l'échec, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est en fait la peur de réussir. Et oui, ça fait bizarre. Bien sûr que vous voulez réussir et vous avez l'ambition d'accomplir ce projet et ça peut pas vous faire peur. Au contraire, ça vous fait envie. Mais à regarder de plus près, si c'est pas déjà fait, c'est peut-être qu'une partie de vous n'a pas si envie que ça, en réalité. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est bien plus courant qu'on ne pense. Alors, soyez juste ouvert à cette idée. Et si une partie de moi avait peur de réussir ce projet? Si vous vous projetez dans la réussite, réfléchissez, est-ce que tout le monde autour de vous va vraiment être complètement heureux? Et si vous réussissez, peut-être que vous pourriez gagner beaucoup d'argent. Et c'est pas forcément chose aisée pour tout le monde. Et je vous conseille vivement d'écouter la conférence de Caroline Dubois qui traitera de l'âme de l'argent, pour faire la paire avec l'argent. Et au fond de nous, il y a souvent une peur archaïque qui nous vient de la nuit des temps, du temps des grottes, quand on vivait dans des clans. Parce que si on fait quelque chose qui ne plaît pas à nos concitoyens, à notre famille, à notre tribu, en fait on pourrait être renié par le clan, exclu. Et à l'époque, être exclu du clan, la plupart du temps, ça voulait dire la mort.
Ça voulait dire mourir, oui.
Et même si aujourd'hui, ne plus être invité le dimanche soir chez vos parents, c'est peut-être pas la mort, mais c'est quand même quelque chose qui peut nous sembler grave. Mm-hmm. Donc trahir une sorte de loyauté familiale, tout ça, ça peut être quelque chose qui vous empêche de réussir. Et aussi, le risque de susciter de la jalousie. Que diraient vos voisins? Que dirait votre famille, une fois de plus? Et peut-être que ça évoque des souvenirs du genre la fois où vous avez eu une meilleure note que votre sœur. Mm-hmm. Alors que normalement, c'était toujours elle, la star.
Nos meilleurs amis aussi. Si j'ai réussi, mon meilleur ami qui, lui, est
tout le temps dans la galère.
Ou tout le temps dans la galère. Mm. Peut-être que ça va me séparer de lui.
Mm. Ouais, tout à fait. Il peut y avoir des choses plus ou moins enfouies de ce côté-là. Et qu'est-ce que tu dirais, Noël, de faire tout de suite un tapping pour faire un peu l'inventaire de ces deux peurs?
Peur d'échouer, peur de réussir?
Oui.
Oui, bien oui. Sûr.
Et j'ai envie de les mettre un peu pêle-mêle ensemble parce qu'en fait, ce sont deux facettes de la même médaille.
D'accord.
Et manque de bol, on peut très bien les cumuler.
Oui,
on peut avoir les deux en même temps. Donc en regardant les phrases que vous aviez notées tout à l'heure, est-ce qu'il y a un de vos projets qui serait particulièrement concerné par soit la peur d'échouer, soit la peur de réussir, soit les deux? Et si vous pouvez le noter, entre 1 et 10, ma peur d'échouer pour tel ou tel projet, entre 1 et 10, donc 10 c'est peur maximale, hein, et 0 ça fait le but, il n'y a plus de peur du tout, et du coup ça devient facile. Et même chose pour la peur de réussir.
C'est pas évident, je pense au sujet que je prends qui est j'aimerais faire des méditations tous les jours. Comme ça, à première vue, je me dis que ça n'a pas beaucoup de lien avec la peur d'échouer et la peur de réussir, mais en réfléchissant un peu plus avant, je m'aperçois que ces méditations, si j'arrive à les faire, mon objectif, c'est de changer un peu mon état interne, donc de changer aussi mon caractère, de m'amener vers plus de réussite. Et en cherchant vraiment ce qu'il y a derrière, ce qui semble être la première surface, en allant dans les couches, peut-être qu'il y a derrière une peur d'échouer, une peur de réussir.
Oui.
Elle n'est pas évidente comme ça au premier abord, mais c'est possible.
Voilà. Donc, merci à toi de donner l'exemple. Soyez juste ouvert à cette idée. Peut-être qu'il y a une peur derrière ça.
Tu vois, je me dis, si mon objectif, c'est de ranger mon garage, la peur d'échouer, la peur de réussir n'est pas évidente, mais peut-être qu'il y a quelque chose comme ça derrière aussi. La peur de devenir quelqu'un de meilleur, de plus ordonné, de changer de caractère, de changer un peu sa personnalité, si on arrivait enfin à ranger ce garage qui est si en bazar de 15 ans.
Oui, oui, ça peut aller jusqu'à l'identité, en effet.
Donc même si on ne voit pas trop la peur d'échouer, la peur de réussir dans certaines procrastinations, on peut dire que c'est bon de faire l'exercice quand même.
Absolument. Faites le tapping avec nous et vous serez peut-être surpris de voir ce qui se passe. En effet. Alors, gardez votre feuille à portée de main, mais je vous conseille à prendre des notes seulement s'il y a des souvenirs ou des prises de conscience qui se présentent. N'essayez pas de noter toutes les phrases, vous pourrez les retrouver facilement avec la réécoute ou plus tard dans la boutique. C'est bon pour toi, Noël ?
C'est parfait.
Allez, c'est parti. Point karaté. Même si j'ai peur de me mettre en route pour ce projet. Aujourd'hui, je choisis de respirer. Et je m'accepte là où j'en suis. Même si j'ai peur d'échouer. Et plutôt que de me casser la figure en essayant. Je préfère rester sur mon canapé à ne rien faire. Je me félicite aujourd'hui de regarder mes peurs en face. Et quoi qu'il arrive, je m'accepte tel que je suis. Même si avec ma tête, je veux réussir. Je m'ouvre à la possibilité. Que certaines parties de moi ont peur d'accomplir ce projet. Et du coup, elles freinent des cas de fer. Pour me protéger. Et c'est ok, je leur dis merci. Au sommet de la tête, cette peur d'échouer. Début du sourcil, cette peur de réussir. Coin de l'œil,
toutes ces peurs qui s'affrontent à l'intérieur de moi.
Sous l'œil, oh là là, c'est le souk, c'est fatigant. Sous le nez, pas étonnant que je ne passe pas à l'action. Creux du menton,
toute mon énergie est mobilisée à avoir peur.
Sous la clavicule, toutes ces peurs. Sous l'aisselle,
toutes ces résistances.
Sous le sein, toutes ces croyances. Et là, on va énumérer ensemble des croyances. Alors, pareil, dites-les en vrac et regardez ce qui se passe. Sommet de la tête,
je manque de compétences.
Début du sourcil,
je crains les démarches administratives.
Coin de l'œil, je n'ai pas assez d'argent pour avancer. Sous l'œil,
c'est difficile de réussir pleinement sa vie professionnelle. Et de garder du temps pour soi.
Sous le nez, si je réussis une fois, je vais échouer après et ça sera pire.
La situation sera pire.
Creux du menton, je ne mérite pas de réussir. Clavicule, j'ai peur d'avoir trop de travail. Sous l'aisselle, j'ai peur d'être jugé. Sous le sein, j'ai peur de la jalousie. Sommet de la tête, je n'ai jamais réussi grand-chose jusqu'ici, alors pourquoi ça marcherait cette fois ? Début du sourcil,
J'ai peur d'être trop fatiguée.
Coin de l'œil, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Sous l'œil, je manque de confiance en moi. Sous le nez, je ne fais jamais les bons choix. Creux du menton, Si je prends ma vraie place, je vais sûrement être persécutée.
Si je prends ma vraie place, je vais sûrement être persécutée.
Sous la clavicule, je dois rester solidaire vis-à-vis de mes parents.
Je dois rester solidaire vis-à-vis de mes parents.
Et eux, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Sous l'aisselle, je ferais mieux de me contenter de ce que j'ai. Sous le sein, qui pourrait bien vouloir payer pour ce que j'ai à proposer? Ça met de la tête. Pour vivre de sa passion, il faut du temps. C'est long. Début du sourcil. Je ne peux pas réussir parce que je ne sais pas ce que je veux. Coin de l'œil.
Peur de me mettre en avant.
Sous l'œil.
Honte de me montrer.
Sous le nez. Si je réussis, je pourrais perdre ma tranquillité. Creux du menton. Je ne peux pas réussir, je n'ai pas de diplôme. Clavicule. Je ne maîtrise pas assez les nouvelles technologies. Sous l'aisselle. Il faut que je trouve le projet parfait. Sous le sein. Qui suis-je pour proposer ça? Alors, une dernière ronde, sommet de la tête, toutes ces croyances. Début du sourcil, je me demande bien d'où elles me viennent. Coin de l'œil, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je choisis de leur dire merci. Sous l'œil, merci à mes peurs de vous être présentée à moi. Sous le nez, merci d'avoir été là pour me protéger depuis tout ce temps. Creux du menton, merci de remonter à la surface aujourd'hui. Clavicule, peut-être qu'il est temps de vous transformer. Sous l'aisselle, en douceur, avec bienveillance. Et sous le sein, en toute sécurité. Voilà, une grande inspiration. Donc là, on a fait le grand tour de pas mal de croyances. J'espère que vous pouvez vous féliciter de ne pas les avoir tous. Donc, c'est chouette. Même si, effectivement, on peut les cumuler. Hein. Et dans une séance complète, individuelle, nous pourrions bien sûr travailler exactement sur vos peurs les plus fortes et les croyances qui vous concernent le plus. Et là, on pourrait vraiment creuser, chercher, faire un travail de détective pour savoir d'où ça vient, dans quelle situation vous avez appris ça et les éventuelles difficultés que ça vous provoque dans votre vie d'aujourd'hui. Mais j'ai fait exprès de vous bombarder un peu avec tout ça et le but, c'est justement de vous faire prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui est à l'œuvre à l'intérieur de vous. Et aussi, combien ça peut monopoliser d'énergie, en fait. Donc, notez juste ce qui a résonné pour vous et revoyez vos phrases. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé. Et sachez que vous pouvez bien sûr refaire la séquence autant de fois que vous voulez avec la réécoute. Et ensuite, vous pourriez traiter ça, soit en auto-traitement, avec toutes les conférences et les outils qui vous sont proposés pendant cette semaine de congrès virtuel EFT, ou bien en faisant quelques séances avec une praticienne expérimentée de votre choix.
Oui, dans ce tapping, il y a des réussites professionnelles, il y a des paragraphes qui sont plus axés sur « j'ai pas assez de diplômes, je maîtrise pas assez les nouvelles technologies ».
Oui, ça rejoint aussi l'estime, la confiance en soi. Hein.
Voilà, pour des réussites professionnelles. Et dans le cas où j'ai choisi, j'ai procrastiné parce que je médite pas assez tous les jours. Là, dans ces parties-là, ça ne me parlait pas, vu l'objectif que j'avais. Mm. Mais il y en a certaines, oui, qui me parlent beaucoup. J'ai peur d'être fatiguée.
J'ai peur de ne pas avoir le temps.
Mais à quoi ça sert? Donc, on peut reprendre juste quelques phrases et puis les adapter à son objectif.
Oui, bien sûr. S'il y a des phrases qui ont résonné très fort pour vous, faites votre propre tapping et ne travaillez que sur ces phrases-là. Pas nécessaire de refaire tout le grand tour à chaque fois. Donc, voilà. En ce qui concerne cette double peur, peur d'échouer, peur de réussir.
D'accord, c'est intéressant. Merci beaucoup Maria. Mais les peurs, peut-être que ça n'explique pas tout en matière de procrastination, Maria. On continue avec les autres vraies ou fausses bonnes raisons pour ne pas passer à l'action?
Oui, bien sûr. Alors, une raison que je rencontre assez souvent, c'est que en réalité, vous êtes une rebelle.
Ah, un rebelle, une rebelle.
D'accord. Et peut-être que c'est votre enfant intérieur qui a été malheureusement tellement impuissant dans votre enfance que le seul domaine où il a l'impression d'avoir la main, d'avoir un quelconque contrôle, c'est en résistant et en mettant tout le monde en retard. C'est un peu maladroit, mais c'est sa seule façon d'exister, le pauvre.
D'accord.
Et ça rejoint ce qu'on appelle les messages contraignants qui nous viennent de l'analyse transactionnelle. Alors, je ne vais pas faire un grand discours là-dessus, ça a été développé dans d'autres conférences. Mais en gros, il y a 5 messages contraignants qui sont des sortes d'autoprogrammes qui se mettent en route dès la jeune enfance. Et il y a par exemple « Dépêche-toi ». Et là, effectivement, les personnes qui sont régies, guidées par ce programme « Dépêche-toi », sont très souvent sujettes à la procrastination. Il y a aussi le « sois parfait » ou « fais des efforts ». Et là, effectivement, ce sont soit des tâches difficiles qui ont de la valeur, ou bien la recherche de la perfection. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va aussi donner lieu à beaucoup de procrastination.
Mm-hmm.
Après, les deux derniers messages contraignants, c'est « sois fort ». Et le cinquième, Noël,
c'est « fais plaisir ».
« Fais plaisir », voilà. Alors, « sois fort ». Échappe généralement à la procrastination. Bon, après, il peut y avoir des variantes personnelles, hein. Mais les personnes qui ont ce message « sois fort » sont généralement tellement disciplinées que de toute façon, tout est fait à l'heure, voire avant. Et « fait plaisir » peut avoir quelques tendances à la procrastination parce qu'une grande difficulté à dire non. Ça, on
oui, puis tant qu'on est à faire plaisir à l'autre, on ne s'occupe pas des tâches qu'on a à faire pour soi.
Tout à fait.
Donc, je ne vais peut-être pas procrastiner pour faire plaisir à papa, à maman, à mon mari, à ma femme, à mes enfants. Mais j'imagine que dès que ce sont des tâches qui vont être pour mon propre plaisir, à ce moment-là, je ne vais pas arriver à les accomplir.
Oui,
ou être un temps fou à pouvoir le faire.
Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui donne l'impression de, oh, c'est très urgent, il faut absolument que tu m'aides, et ben, tu vas partir pour...
Là, il risque de ne pas procrastiner.
Voilà.
Dans cette tâche-là.
Ouais.
Mais par contre...
Mais pendant ce temps-là, toi,
tu, pas la vaisselle.
Tu ne médites pas.
Et moi, par exemple, je ne médite pas ou j'ai pas fait ma machine de linge ou je n'ai pas réparé la moto qui est dans les garages.
Voilà. Tant pis, je rangerai le placard un autre jour parce que là, mon voisin a vraiment besoin de moi pour sortir le chien du puf.
Ça me fait penser à ami qui c'était le meilleur ami du monde, il était tout le monde, mais alors quand tu allais chez lui, tu voyais qu'il procrastinait sur toutes les tâches qu'il lui avait à faire.
Il ne cédait pas beaucoup lui-même.
Il avait une moto en pièces détachées dans son garage et il disait oui, je le ferai. Ah, demain je m'y mets. Demain je m'attaque à ma moto. Mm. Et puis 6 ans plus tard, elle était toujours en pièces détachées.
C'est ça. Alors dans cette rébellion, ça peut aller loin parce qu'en fait, c'est peut-être carrément votre cerveau qui est comme addict, qui est accro au conflit, au problème, à la rébellion.
Mmh.
Et en ce moment, je suis en train d'étudier les travaux passionnants du docteur Daniel Amen. Et c'est un pédopsychiatre américain qui a effectué des milliers de scans de cerveau. Et ça a mis en évidence, il a pu cartographier certains troubles psychologiques comme la dépression, les dépendances et l'hyperactivité. Et ce qui apparaît dans ces travaux, c'est que certains cas de troubles de déficit d'attention, qu'on appelle ADD en anglais, TDA en français, ces études semblent indiquer que le cortex préfrontal, et c'est le centre dans notre cerveau qui s'occupe du raisonnement intellectuel, pour simplifier, et ben ce cortex préfrontal, il manque de stimulation chez certaines personnes, à tel point qu'il va se mettre à provoquer toutes sortes de schémas d'autosabotage, dont la procrastination.
Mmh.
Et ces troubles sont encore assez méconnus et c'est un débat qui dépasse largement le cadre de cette conférence, bien sûr. Mais ce qu'on peut noter au passage, c'est que Dr. Amen y préconise des remèdes naturels comme la méditation, l'hypnose et l'EMDR. Et il a constaté des résultats probants dans certains cas d'hyperactivité et de ce trouble de déficit d'attention. Alors, moi, je me dis, et ça c'est moi, hein, c'est pas encore Dr. Amen, ça viendra peut-être. Pourquoi pas utiliser l'EFT aussi, puisque cette technique amène aussi une relaxation. C'est quelque chose qui permet de stimuler le système nerveux parasympathique et aussi de transformer les pensées négatives.
Oui, et puis on sait aujourd'hui que la pratique de l'EFT a vraiment une action sur le cerveau.
Tout à fait.
Sur le fonctionnement du cerveau.
Oui, il y a de plus en plus d'études qui le prouvent, exactement. Donc voilà, la troisième bonne raison de ne pas passer à l'étape de l'action, c'est cette rébellion.
Être rebelle.
On peut imaginer votre enfant intérieur qui croise les bras, qui freine, qui plante les talons dans le sol et qui dit « Non, j'ai pas envie et tu peux pas me forcer, non
ouais. !»
Et là, bien sûr, avec l'EFT, on peut aller négocier avec lui, peut-être lui faire comprendre quel serait l'intérêt, malgré tout, de le faire. Et un quatrième point, c'est la pensée qui vous manque des informations, des ressources, des connaissances.
Ah oui, je ne sais pas faire. Je ne fais pas ma feuille d'impôt parce que je ne sais pas la faire.
Voilà, je n'ai pas la compétence. Il me manque d'informations.
D'accord.
Ou je ne m'installe pas en tant que sophrologue ou relaxologue ou hypnothérapeute parce que il me manque un module de la formation. Ou je ne mets pas encore en place mon site internet parce que j'ai pas trouvé le nom absolument parfait. Donc le fait de penser que si seulement j'avais telle ou telle formation, information, alors je pourrais m'y mettre. Et ben c'est souvent un indicateur du syndrome de l'imposteur, ou tout simplement un manque d'estime et de confiance en vous, et aussi confiance en ce que vous pourriez accomplir dans le monde. Et voilà, tout à l'heure on a eu la conférence de Steve Doupeux là-dessus, donc j'espère que le syndrome de l'imposteur n'a plus de secret pour vous, mais en tout cas, c'est clair qu'avec l'EFT, on peut traiter des choses. Ce qui n'empêche pas de faire des formations hein, et de continuer votre formation professionnelle, bien sûr, on peut toujours ajouter des outils et des méthodes. Mais si c'est quelque chose qui vous bloque, si vous avez tendance à penser « Ah, quand seulement j'aurais passé le niveau 27 de ma formation professionnelle, là, je serais prête
oui. »,
il y a probablement un petit souci.
Je rencontre de temps en temps dans mes formations, ce sont des gens qui ont fait énormément de formations,
ouais.
mais ils font une formation de plus avant de s'installer. Ça fait 5 ou 6 ans qu'ils étudient la sophrologie, qu'ils étudient tout un tas de choses, et il leur semble qu'ils sont encore complètement incompétents pour s'ouvrir à la clientèle.
Oui, et pas seulement dans nos domaines, hein. On connaît aussi tous quelqu'un qui a un bac plus 22, qui fait formation sur formation à l'université, dans des grandes écoles, mais qui ne trouve pas sa place dans la vie professionnelle,
ouais.
parce que ce n'est jamais assez. Des perpétuels étudiants qu'on peut voir.
Tu dirais que ça rejoint l'estime de soi, la confiance en soi ?
Oui, oui, je pense. C'est un manque de confiance en ce qu'on peut faire.
En ses capacités.
Ouais. Et la croyance qui est peut-être assez courante aussi en France, cette valeur qu'on accorde au diplôme.
Ah oui, si on n'a pas le bon papier,
voilà.
La compétence en elle-même n'est pas suffisante.
Il
faut le papier.
Et bien sûr, n'allez pas vous installer en tant que chirurgien si vous n'avez pas fait l'école de médecine.
Évidemment,
hein?
Évidemment.
Même en faisant beaucoup d'EFT, ça ne donnera pas de bons résultats. Je vous le déconseille fortement. Mais faites la part des choses. Et si c'est cette croyance que si je n'ai pas tel ou tel diplôme, telle ou telle compétence, je n'ai pas le droit.
Là, on peut avoir un diplôme et pas la compétence. On peut avoir la compétence et pas le diplôme.
Tout à fait.
Et voilà, il y a peut-être un juste équilibre à trouver entre les deux, avoir les bons diplômes, évidemment, on ne s'installe pas comptable si on n'a pas un diplôme
de
comptable, ou on ne s'installe pas de notaire si on n'a pas son diplôme de notaire.
Oui, mais si vous êtes dans cette boucle interminable de formation sur stage, sur pratique, sur programme en ligne, peut-être que vous avez des choses à chercher de ce côté-là. Et puis un autre point qui peut ressembler un peu, c'est que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas encore le moment de passer à l'action. Alors là-dedans aussi, il y a du vrai et du faux, parce que, voilà, on peut penser que c'est de la procrastination, mais parfois, en réalité, c'est de la gestation.
Oui.
Donc ça, je dirais que ça peut être une vraie bonne raison de ne pas passer à l'action.
Oui, auquel cas, ce n'est pas de la procrastination réellement.
Exactement.
Si on attend que le projet mûrisse et...
Oui.
Je comprends.
Et pour les femmes qui ont fait des enfants, j'espère que quand vous étiez enceinte, vous ne vous disiez pas « Oh là là, je me sens coupable de ne pas accoucher de ce bébé plus vite. Hein? » Faire un enfant, construire un enfant dans son ventre, ça prend le temps que ça prend. Et il vaut mieux, parce que là, si jamais il sort avant l'heure, c'est plutôt des problèmes à la clé. Donc, réfléchissez, est-ce que votre projet est vraiment mûr? Est-ce que tout est vraiment en place? Et là aussi... Si c'est le cas, vous pouvez vous aider de l'EFT pour accepter la situation et pour transformer les éventuelles croyances limitantes qui pourraient être à l'œuvre. Et d'ailleurs, ce congrès virtuel de l'EFT, ça me fait un peu penser à ça, Noël, parce que c'est vrai qu'avec le calendrier, en tout cas en France, en Europe, on n'est pas aidé. Et souvent, j'ai des clients qui me disent « Oui, mais je ne peux pas lancer mon programme en ligne maintenant parce que c'est les vacances scolaires ». Et après, ça va être les grandes vacances, et après, il y a des jours fériés, et après, c'est la fin de l'année, le mois de mai avec tous ces ponts, et c'est jamais le bon moment, en fait.
Jamais.
Donc, lâchez ce fantasme du bon moment,
Voilà, nous, on fait le congrès en plein mois de mai, il y a plein de ponts, il y a des jours fériés, et ben, il y a quand même des gens qui sont là. Ça les rend plus disponibles, ou moins, mais le moment parfait, de toute façon, c'est celui où vous passez à l'action.
Exactement.
Et s'il y a des croyances au moment, ou quant au temps ou autre chose, j'en profite pour vous recommander le bonus que j'offre dans le pack et dans le kit de cette conférence qui s'appelle 6 étapes pour transformer vos croyances limitantes. C'est une vidéo de 40 minutes avec de vrais morceaux de FT 2 ans. De véritables tapping. Où on va traiter quelques croyances limitantes plutôt en rapport avec la réussite professionnelle.
D'accord.
Et on en arrive au sixième point, la sixième bonne raison de ne pas passer à l'action, c'est que peut-être que ce n'est pas à vous de le faire.
Uh-huh.
Et là, je vous invite à reprendre vos phrases qui commençaient par « je devrais ». Et j'ai envie de vous proposer un petit exercice pratique qui vient de Louise Hay et son livre « Vous pouvez transformer votre vie » et le programme qui va avec. Relisez d'abord vos phrases telles quelles. Donc normalement, je vous ai conseillé tout à l'heure de les écrire. Je devrais ceci et cela.
Ranger mon garage.
Voilà. Je devrais méditer tous les jours.
Je devrais méditer tous les jours.
Alors comment tu te sens en lisant ce « je devrais » Noël?
Ben, étant donné que je devrais le faire et que je ne l'ai pas encore fait, je me sens un peu tendue.
C'est un peu lourd. Hein.
Oui.
Oui, parce que derrière ce « devrait », il y a tout un tas d'implications, contraintes, jugements. Je devrais, je ferais mieux de « sinon ». Voilà, ça nous vient aussi de notre culture judéo-chrétienne avec toutes les culpabilités qui s'en suivent. Alors, prends ton crayon, Noël, et tu vas barrer ce « je devrais ». Et à la place, je t'invite à écrire « Si je le voulais vraiment, je pourrais. »
« Si je le voulais vraiment, je pourrais méditer tous les jours. »
Et là, est-ce que ça te plaît mieux?
Je suis en train de prendre conscience que si je voulais vraiment, je pourrais le faire. Donc, c'est peut-être que quelque part, ou une part de moi ne le veut pas vraiment.
Oui, c'est ça.
C'est ça que tu dis, Marie.
C'est un peu ça. Ça fait partie des prises de conscience qui peuvent sortir de cet exercice. Mais c'est pas la seule, parce que ça peut aussi mettre en évidence que, en fait, c'est pas vraiment ton envie.
Oui.
Et du coup, ça peut devenir plus léger. En tout cas, je trouve qu'en général, ça permet de récupérer un peu de votre énergie.
Par contre, ça me permet de reprendre tout à fait mon pouvoir. Si je voulais vraiment, je pourrais méditer tous les jours. Et c'est une phrase que je trouve complètement vraie.
Voilà.
Dans le sens. Si je voulais vraiment, me connaissant comme je me connais, oui, je pourrais faire en sorte de vraiment le faire, si je voulais vraiment. Donc, je prends conscience que peut-être qu'une part de moi, plusieurs parts de moi, le souhaite, le désire, mais ne le veut pas vraiment.
Oui, exactement. Et ça permet aussi, là, de récupérer son pouvoir. J'aime bien cette formulation.
Oui.
On pourrait dire aussi reprendre sa responsabilité. Mais là aussi, responsabilité et culpabilité a tendance à se confondre un peu. Donc, oui, je reprends mon pouvoir.
Oui.
C'est une bonne façon de le dire. Et puis, ça peut ouvrir une nouvelle porte. Parce que parfois, vous allez réaliser que, non, j'ai pas vraiment envie, en fait. Et là, une fois de plus, je ne suis pas en train de vous dire que vous ferez plus jamais aucune tâche qui ne vous fait pas plaisir. Mais voilà, je vous invite à faire le tri. Qui me dit qu'il faut faire telle ou telle tâche? Qui me dit que je devrais faire ça? Est-ce vraiment dans mon intérêt? Est-ce vraiment bon pour moi? Et ça peut aussi vous donner une autorisation à dire non si telle ou telle proposition ne s'inscrit pas dans votre chemin de vie.
En fait, je devrais méditer tous les jours. C'est vraiment différent de si je voulais vraiment, je pourrais. Et je m'aperçois qu'actuellement, par exemple, avec ce congrès qu'on a eu à préparer, sincèrement, j'avais effectivement moins de temps, donc c'est pas devenu une priorité. Donc, si je le voulais vraiment, je pourrais.
C'est ça.
Et je m'aperçois que oui, c'est beaucoup plus léger que de dire je devrais. Mais si je voulais vraiment, oui, je pourrais effectivement et remettre les choses un peu plus, je dirais, à leur juste place peut-être.
Oui, c'est ça. Je devrais, ça a tendance à induire une mauvaise conscience de me rappeler que. Je ne l'ai toujours pas fait. Alors que si je le voulais vraiment, je pourrais. Là, c'est Ok, c'est léger. Je prends ma responsabilité, je reprends mon pouvoir. Et c'est à moi de choisir.
Et peut-être que je ne le veux pas vraiment, et c'est tout à fait ok comme ça.
Exactement.
Je ne méditerai pas tous les jours actuellement, et c'est parfait.
Et dans ce cas-là, enlevez-le, arrêtez de le répéter tous les jours sur votre nouvelle liste pour la journée, parce que, en fait, c'est pas pour maintenant.
Ou de réellement le passer à l'action et le faire.
Oui, exactement. Donc voilà, on a fait le tour des 6 plus ou moins bonnes raisons de ne pas passer à l'action.
Donc si je résume, Maria, les 6 plus ou moins bonnes raisons de ne pas passer à l'action, c'est donc tu nous as dit la peur d'échouer, la peur de réussir, celles-là en général tu les mets ensemble, ou elles peuvent aller ensemble, un caractère de cochon, un caractère de rebelle.
Oui, c'est comme ça qu'on le dit.
Un caractère de rebelle, voilà. Le manque d'informations, de ressources, c'est pas le bon moment et ce n'est pas vraiment à moi de le faire.
Oui, c'est exactement ça. Alors, on a mentionné quelques façons d'utiliser l'EFT pour ça.
Voilà, et en plus de l'EFT, est-ce que tu peux nous donner d'autres astuces pour passer à l'action plus facilement?
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est à prendre au sérieux, si on veut dire, parce que nous vivons aujourd'hui dans une société de distraction terrible. Et ça demande vraiment un effort considérable et conscient pour échapper à toutes ces distractions.
Ouais.
Ça demande de la discipline.
Pardonnez-moi
de dire des gros mots. Mais ça passe par le fait de clarifier votre objectif, votre but à vous. Parce qu'il est beaucoup trop facile de vous dévier de votre route si vous n'avez pas de destination claire. Et là-dessus, je vais mentionner rapidement un de mes mentors, Brandon Burchard, un Américain. Il parle de l'importance de rester connecté à notre propre objectif pour réussir. Et pour lui, ça passe entre autres par une certaine déconnexion des demandes et exigences des autres. Parce qu'en fait, toutes ces informations qui nous assaillent à travers les réseaux sociaux et notre boîte mail qui déborde, ce ne sont que des demandes d'autres personnes. Et d'ailleurs, cette boîte de courrier entrant, qui a tendance à déborder, et il l'a nommée une astuce formidable pour organiser les demandes des autres. Et moi, ça m'a vraiment frappée, cette formulation, et à tel point que j'ai renommé ma boîte mail entrant de cette façon. Et depuis, chaque fois que j'y vais pour vérifier, est-ce que quelqu'un m'a écrit, est-ce qu'il se passe quelque chose, quelles sont les infos du jour, je vois au passage que ce ne sont qu'une organisation astucieuse des demandes des autres personnes, et ça m'aide à y consacrer un peu moins de temps et d'énergie. Et comme ça, je peux être plus focalisée sur mes propres projets. Donc, ça peut passer par des habitudes comme de ne pas regarder les mails en permanence, peut-être arrêter les alertes qui vous disent « Bling, il y a un mail qui est arrivé.
Oui.
Oh, qu'est-ce que c'est ?»
Oui.
Parce que notre cerveau va automatiquement vers ce qui est nouveau. Ça peut être une bonne nouvelle. Bon, c'est assez rare en réalité, mais ça peut être une bonne nouvelle. Et ça rejoint l'idée des mauvaises habitudes. Ça peut être quelque chose sur quoi on procrastine aussi. Je devrais me coucher plus tôt, je devrais faire plus de sport, je devrais changer d'alimentation, arrêter tel ou tel aliment. Et pour ça, rappelez-vous que une habitude, c'est quelque chose que votre corps sait faire tout seul, sans que votre tête intervienne.
Ça, c'est sûr.
Oui.
Ça marche tout seul.
Oui, ça marche tout seul.
Ça marche tout seul.
Et la mauvaise nouvelle, ça marche tout seul, ça c'est génial. Merci.
Oui.
Mais malheureusement, il ne suffit pas de vouloir arrêter avec notre tête. Parce que ça continue à marcher tout seul.
Ça marche tout seul.
En fait. Et j'ai un exemple personnel à partager à ce propos. Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais pris la terrible habitude de snoozer le matin. C'est-à-dire, quand le réveil sonnait, j'appuyais sur le bouton qui faisait qu'il ressonnait 9 minutes plus tard. Et encore 9 minutes plus tard. Et 9 minutes plus tard. Et je perdais un temps fou. À faire ça. Et c'était pas vraiment du repos non plus, donc j'avais vraiment, vraiment envie d'arrêter ça, et j'ai eu beaucoup de mal. Et la solution que j'ai trouvée, c'est vraiment de passer par le corps. C'est-à-dire que, un jour, j'ai vraiment décidé que j'en avais marre. Et je suis allée me coucher, en pleine journée, quand j'étais en mode consciente, avec toute ma tête. J'ai mimé le fait de me mettre au lit, j'ai fait sonner le réveil, et je me suis levée d'un bond, tout de suite. Voilà, je me suis habillée, je suis partie... jusqu'à la cuisine, comme je fais le matin quand je me lève, et après je suis retournée me coucher. Et j'ai fait ressonner le réveil, et j'ai fait ça 4-5 fois de suite, en pleine journée.
Et tu as fait
en état d'éveil.
Consciemment.
Oui, j'ai appris à mon corps de le faire.
Très
Et bah, depuis, quand le réveil sonne, je me lève.
C'est devenu ta nouvelle habitude.
C'est ça. J'ai installé une nouvelle habitude, mais vraiment au niveau corporel.
D'accord.
Bon, malheureusement, pour toutes les habitudes, c'est pas toujours facile d'identifier un comportement corporel. Mais si vous pouvez le faire, essayez et vous verrez. Moi, j'ai été époustouflée, en tout cas, par les résultats.
On pourrait faire ça quand on a l'habitude de percer clés tout le temps.
Oui.
Et consciemment, faire plusieurs fois, j'arrive chez moi, je pose des clés ici,
exactement.
Et là, et on ressort, on refait le geste de rentrer, on pose les clés à ce clou-là.
Oui, excellent exemple. Oui,
d'accord.
Tout à fait.
Tout à fait. Très intéressant.
Et si tu veux, Noël, on peut aussi finir sur quelques rondes pour ça, où on va installer une nouvelle habitude au niveau des cellules.
D'accord.
Ça te va?
Ça me va très bien.
Allez, c'est parti. Alors, on va prendre l'habitude de procrastiner, tout simplement.
C'est-à-dire, on va prendre l'habitude.
Ben, on va transformer cette habitude
de procrastination en passage à l'action plus rapide.
Oui,
c'est parfait.
Alors, sur le point karaté, même si j'ai pris cette habitude de procrastiner, aujourd'hui, je choisis de respirer. Et je m'accepte là où j'en suis. Même si je découvre toutes les bonnes raisons, que j'avais de ne pas passer à l'action, aujourd'hui je m'ouvre au changement. Et je me félicite de mon courage. D'entreprendre cette démarche. Même si j'ai un tas de bonnes raisons, de procrastiner encore un peu, je m'ouvre à la possibilité de faire un premier pas. Et puis un autre, et encore un. Mais je ne suis peut-être pas obligée de tout finir aujourd'hui. Ouf. Sommet de la tête, cette vieille habitude de remettre à demain. Début du sourcil, je suis vraiment un pro de la procrastination. Bravo moi. Coin de l'œil, toutes ces bonnes raisons de ne pas passer à l'action. Sous l'œil, toutes les habitudes que j'ai laissées s'installer dans ma vie. Sous le nez, toutes ces habitudes qui ne mettent plus. Trait du menton, et toutes ces distractions qui me volent mon énergie. Oui, tout à fait. Clavicule, oh, il faudrait que j'arrête. Sous les selles, je devrais avoir plus de volonté. Je devrais être plus forte. Sous le sein, j'aurais dû faire ceci, j'aurais jamais dû choisir cela. Sommet de la tête, non, stop, je recommence là. Début du sourcil, j'ai déjà essayé en me mettant plus de pression. Coin de l'œil, et les résultats, non merci. Sous l'œil. Aujourd'hui, je m'ouvre à un nouveau fonctionnement. Sous le nez, sans la pression, mais sans devenir molle pour autant. Près du menton. Peut-être qu'il est possible pour moi de garder le cap. Tout en étant détendu et disponible. Sous la clavicule. Et si je pouvais commencer à changer mes habitudes? Sous les selles. Et si je pouvais apprendre à mon corps et à mes cellules de faire autrement? Sous le sein. Et si je pouvais créer une vision claire de ce que je veux? Et ensuite m'y tenir?
Au moins un peu plus.
Voilà, soyez doux et bienveillants avec vous. Sommet de la tête. Ah oui, j'aime cette idée. Douceur et bienveillance. Début du sourcil. Je m'adresse à toutes mes cellules. Coin de l'œil. Mes chères cellules adorées. Sous l'œil. Je vous remercie pour tout le merveilleux travail que vous effectuez. Sous le nez. Sans que j'aie à vous le dire ou à faire quoi que ce soit. Creux du menton, gratitude pour tous ces automatismes. Sous la clavicule, seulement aujourd'hui, j'ai une nouvelle à vous annoncer.
Seulement aujourd'hui, j'ai une nouvelle à vous annoncer.
Sous l'aisselle, à partir de maintenant, nous allons fonctionner autrement par ici.
À partir de maintenant, nous allons fonctionner autrement par ici.
Sous le sein, à partir de maintenant, nous allons agir avec plus de conscience.
À partir de maintenant, nous allons agir plus avec plus de conscience.
Sans mettre la tête, quand il y a une décision à prendre, début de sourcil, elle sera prise en fonction de mon objectif fixé. Coin de l'œil, et quand il s'agit de passer à l'action, sous l'œil, nous pouvons le faire d'une nouvelle façon. Sous le nez, plus souple, plus détendu. Près du menton, avec plus de conscience. Sous la clavicule, avec beaucoup moins de gaspillage d'énergie. Sous l'aisselle, en toute sécurité. Sous le sein, et pour le plus grand bien de tous. Une dernière ronde. Sommet de la tête,
Je sais que cela est nouveau pour vous, mes chères cellules.
Début du sourcil. Et c'est pour ça que je m'engage à vous accompagner. Coin de l'œil.
Régulièrement, nous aurons ce genre de conversation.
Sous l'œil, le temps qu'il faudra jusqu'à ce que ce nouveau fonctionnement devienne complètement naturel. Sous le nez, notre nouvelle norme
pour accomplir tous les projets importants.
Près du menton, merci d'avance pour votre collaboration. Et on va finir sur la clavicule. Je vous aime et je vous apprécie.
Merci pour tout.
Fin de la transmission à mes cellules. Voilà, respirez un bon coup. Ça va, Noël ?
Oui, ça va.
Comment vont tes cellules ? Elles sont là à se gratter la tête ? Mais non. Elle a perdu la boule.
Non, pas du tout. Elles étaient bien contentes pour la fois que je leur parle. De cette façon-là, en tout cas, c'est très intéressant de s'adresser comme ça, de se parler à soi-même en conscience et tout en tapotant. J'apprécie, c'est très très bien.
D'accord. Alors, voilà, j'espère que ce tapping vous a aidé à faire un peu le tri. Et c'est comme ça qu'on peut aussi installer de nouvelles habitudes au niveau corporel. Alors, un dernier point, une dernière solution qui peut plaire à certains, c'est ce que j'appelle la procrastination productive. Vous savez, c'est quand vous avez un projet à rendre après-demain et bizarrement, c'est là, enfin, le moment idéal pour dégérer le congélateur, ce qui était resté en bas de votre liste de choses à faire depuis des semaines. Et bah dans ce cas-là, plutôt que de culpabiliser une fois de plus sur ce que vous auriez dû faire, et bah célébrez votre réussite. Je sais pas, prenez une photo de congélateur tout propre, postez sur Facebook. Et demain, essayez de vous mettre un objectif encore plus rebutant que ce projet que vous devez rendre. Et qui sait, peut-être qu'il deviendra facile, voire amusant.
C'est possible, Maria.
Des fois, on peut ruser comme ça, passer sous le radar de notre cerveau, plus ou moins tordu. Et pour certaines personnes, ça peut fonctionner.
Écoute, Maria, je regarde l'heure qui tourne. Je te remercie beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup de pistes possibles pour les procrastinateurs, qu'ils soient professionnels ou pas. Et je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là pour ce soir. Sinon, les auditeurs risqueraient de se trouver complètement submergés par toutes ces idées. Et ça risquerait même de les empêcher de passer à l'action.
Ah, mais ça serait bien dommage.
Je vois que le temps est là.
Alors, j'ai juste un mot pour la fin. Donc, une fois de plus, j'ai fait exprès de déballer toutes ces solutions. Je ne vous dis pas faites tout et d'ici demain, s'il vous plaît. C'est plutôt à prendre comme un buffet. Donc, picorez, goûtez et choisissez vos plats préférés. Et surtout, ce qui fonctionne pour vous.
Oui.
Et en conclusion, j'aimerais juste faire un clin d'œil à mon ami et mentor Steve Wells, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Steve est australien et spécialiste de la psychologie énergétique provocatrice, qu'il enseigne régulièrement en Europe d'ailleurs. Et il dit souvent dans ses séminaires une phrase qui se traduit « Si ça ne peut pas être fait à la dernière minute, ça ne peut pas être fait du tout. » Et je crois que nous en sommes à la toute dernière minute pour ouvrir le chat et répondre aux questions.
Exactement ça, Maria.
Donc c'est ce qu'on va faire parce que c'est encore possible.
Donc merci Maria. Et puis on va se retrouver dans le chat afin que les auditeurs puissent poser des questions et on se retrouve là-bas.
Ouais, super. Allons-y. Je suis curieuse de découvrir tout ce que cela a évoqué. Donc à tout de suite, Maria. À tout de suite.
Voilà la conférence de Maria. Maintenant, c'est moi qui ai la main pour cette conférence de 21h.
Je me mets tout de suite sur le chat.
Voilà. Maria va regarder sur le chat les questions que vous allez lui poser et elle va se préparer pour y répondre. Moi, je vais m'exécuter au tirage au sort et puis je vais vous dire, le tirage au sort, ça concerne les packs. Donc Thierry qui doit être par là, j'espère, moi j'aime bien voir quand il y a Thierry qui se prépare pour gagner le pack.
Donc oui, il a promis en début de conférence de ne pas procrastiner pour le tirage au sort.
Donc c'est vraiment les packs où il y a les 14 conférences de cette année. Les 14 conférences, on est ce soir à la 10e si mes comptes sont bons.
C'est ça.
14 conférences, vous pourrez les réécouter comme ça tout au long de l'année. On a dans ces packs également des bons de réduction. Les conférenciers vous offrent des pourcentages de réduction sur leurs différents produits. Et puis il y a surtout les bonus que vous ne pouvez acquérir que en achetant ou les conférences limitées où le bonus est mis avec la conférence du conférencier, ou alors en achetant le pack. Ces packs, ça va vraiment vous permettre toute l'année de vous replonger dans l'énergie de ce congrès, de réécouter les conférences plusieurs fois. Je connais de nombreux professionnels de l'EFT qui aiment réécouter certaines des conférences parce que ça va les aider et moi aussi ça m'aide avec certains cas d'aller se replonger sur ce qu'a dit un tel. Et également, un des plus beaux témoignages qu'on ait eu sur les effets d'écouter ces conférences plusieurs fois, c'est un témoignage de Marie-Louise qui nous a fait le grand plaisir de témoigner en 2013. Si elle nous écoute ce soir, je l'embrasse très très fort et la remercie encore pour son témoignage. Marie-Louise, vous pouvez voir ses vidéos dans la partie ressources, vidéo 2013. C'est une jeune femme qui était avec d'énormes problèmes physiques. Elle a eu 32 opérations. Elle était avec des cannes pour marcher à l'intérieur de sa maison. Il lui fallait sortir à l'extérieur en fauteuil roulant. Et puis, quelqu'un lui a offert les trois packs à l'époque. On lui a offert le pack 2011, 2012, 2013 et elle a écouté ça en boucle. Et elle me disait, de toute façon, j'avais rien d'autre à faire. J'ai écouté toutes ses conférences, même sur les sujets qui ne m'intéressaient pas. Et elle a tapoté sur toutes ses conférences. Et elle a fait ça pendant plusieurs jours. Et au bout de plusieurs jours, son état physique s'est nettement amélioré. Et ensuite, elle était venue faire des séances avec moi, puisqu'elle avait des gros cailloux qu'elle n'arrivait pas à libérer toute seule. Et donc, après, on a travaillé, puis elle s'est formée à l'EFT. Elle a donné ses cannes et son fauteuil roulant à des associations caritatives et elle a vraiment changé de vie. Et elle me disait, ça a été un grand tournant dans ma vie. Et si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est écouter ses conférences et tapoter sur tous les sujets, même si ça vous semble pas intéressant pour vous. On a reçu d'autres témoignages, peut-être moins resplendissant que celui de Marie-Louise, qui est un témoignage exceptionnel. Mais de pouvoir réécouter ces conférences tout au long de l'année en prenant le temps, on a vraiment à cœur de transmettre l'EFT dans le monde. C'est pour ça qu'on offre tout ça gratuitement pendant 24 heures. On reçoit quelques mails de gens frustrés qui voilà, trouvent que 24 heures c'est trop court. Oui, certainement ça l'est. On a longuement réfléchi à ça, on a pris cette option de plutôt que de faire tout payant,
parce que c'est un travail considérable. Et j'en profite pour remercier Samien qui est là tous les soirs dans les coulisses, qui travaille pour nous énormément. Merci infiniment Samien. Je remercie Christelle qui répond à vos mails toute la journée, qui est là le soir jusqu'à 23h et qui répond à tous les mails et laisser des décoincés, tous les gens qui sont coincés pour pouvoir nous rejoindre ici. Je remercie infiniment Bertrand pour le travail colossal qu'il a là-bas.
Wouhou, Bertrand, super héros du web.
Tout ça, c'est énormément de travail. Et il serait certainement plus logique que cet événement soit payant du début à la fin. Nous, on a pris l'option de l'offrir pendant 24 heures et ensuite de mettre le plus petit prix possible à ces packs. Le premier pack est à 39€ x 3, soit ou 117€ à acheter d'un coup. Donc, j'ai été un peu longue ce soir sur la description des produits et ce travail qui nous tient tellement à cœur. Notre désir à nous, c'est de le voir durer encore et encore et encore. On est très très fiers d'être à la 6e année. On espère que vous en retirerez tous les bénéfices que beaucoup de gens en retirent depuis 6 ans maintenant. Donc, pour le tirage au sort, alors, je vais regarder le nom de qui a gagné les packs. Donc, nous avons un Pascal, c'est un gars.
Un Pascal, voilà.
Un Pascal. Son adresse email commence par pascal.amantier@bbbox.fr. Voilà, Pascal, tu as gagné un pack PDF. Et puis on a une nana, c'est Christine. Christine, c'est G et la suite, @gmail.com. Bravo! Et puis Maria, étant donné qu'elle a participé également à l'écriture du petit livre de l'EFT, que je vous conseille vivement, c'est un petit livre qui a été écrit et qui a été, édité aux éditions First. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies, en ligne ou des bonnes librairies dans votre quartier. C'est un petit bouquin qui coûte 2,99€, qui est formidable. On a été 8 à participer à l'écriture de cet ouvrage. Et donc, on le fait gagner à Amélie, et son adresse email commence par a.c.quelquechose@wanadoo.fr.
Oui, et j'ai déjà vu passer la question « Comment transformer les croyances ?» et c'est justement le sujet de mon chapitre dans ce petit livre. Donc ça fait partie des façons, hein. Mais bien sûr, on va en parler aussi ensemble.
Donc, maintenant... J'ai dit ça.
Ben, t'as peut-être tout dit.
J'ai dit l'essentiel.
Oui.
Donc, on va passer aux questions-réponses. Maria, est-ce que tu as vu des choses qui t'inspirent des réponses?
Oui. Tu crois pas qu'on peut le faire un peu plus tard?
Quoi donc?
Ben, répondre aux questions. Je peux pas attendre un peu.
Tu voudrais attendre?
Ouais.
On attend quoi? Que ce soit vraiment le dernier moment?
On pourrait manger d'abord? Non, je vous taquine. On va s'y mettre parce qu'en plus, il y en a beaucoup. Donc, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Pour commencer, en tout cas, on verra ce que ça donne. Donc, Gigi, Guy, fait le commentaire que j'ai prononcé les mots plusieurs fois. Alors, elle dit que ça donne ceci. Si je le voulais vraiment, pas envie de le faire. Je devrais, si je veux, mais plus tard. Et par contre, je dois, je me donne un ordre et je le fais. Qu'en pensez-vous? Moi, j'en pense, Gigi, que si c'est le « je dois » qui fonctionne pour vous, faites-le. Peut-être que les quelques rondes qu'on a fait sur la douceur et la bienveillance vers la fin, peut-être que ça a altéré quelque chose à ce « je dois » que moi, personnellement, trouve un peu violent. Mais si pour vous c'est efficace et si c'est ça qui fonctionne, ma foi, faites-le. C'est en tout cas ce « je devrais » qui effectivement est plus insinueux que « je dois ». Dans « je dois », on entend plus clairement un ordre, effectivement. Peut-être que vous pourrez reformuler ça. Il est vraiment important pour moi de faire ceci ou cela. Ou il serait vraiment bon pour moi de le faire. Mais voilà, si vous avez trouvé une clé, si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous,
Il y a une sorte d'ordre dans le présent. Je dois le faire, fais-le. Alors que je devrais, il me semble que ça reste un peu plus dans le nuage là, du cloud. Je devrais faire ceci, je devrais faire du sport, je devrais méditer, je devrais. Alors que je dois, oui, peut-être ça donne un peu plus d'élan.
Mm-hmm. Ben, bravo en tout cas d'avoir identifié ça pour vous. Super.
Alors, Ambre, depuis près de 8 mois, je n'arrive pas à ouvrir ma boîte aux lettres. J'ai vécu des choses pénibles et le plus drôle, je devais recevoir des bonnes nouvelles. Mais je sape totalement et je vis le moment présent. Vivre le moment présent, ça c'est une bonne chose, mais s'il y a en plus un cadeau, un autre présent qui vous attend dans la boîte aux lettres, c'est quand même dommage de vous en priver. J'ai eu à une époque vraiment cette phobie de la boîte aux lettres. J'ai connu ça parce que, vous savez, dans la boîte aux lettres, on ne reçoit pas que des bonnes nouvelles. Hein. Et c'était une époque où c'était surtout des relances et des rappels et des mauvaises nouvelles. Et il y avait des jours où vraiment, je ne pouvais pas y aller. Et je me souviens d'avoir fait une séance là-dessus avec une collègue EFT. On avait vraiment travaillé sur... Pour moi, j'avais nommé ça la phobie de la boîte aux lettres. Bon, c'était une phobie passagère, hein, mais c'était vraiment vécu comme une grande peur pour moi. Et ça l'a libérée. Et le lendemain, je suis passée devant la boîte aux lettres et je me suis dit, j'y vais pas. Allez, de toute façon, ça va pas me sauter à la gorge. Et effectivement, depuis, je n'ai plus jamais connu ça. Donc, quelques rondes de FT vraiment ciblées sur ça. Imaginez. Vous savez, j'ai parlé de Steve Wells qui fait de la thérapie provocatrice. C'est pas pour rien que je suis certifiée de cette approche. J'aime beaucoup utiliser de l'humour, de l'exagération. Et peut-être, si on avait à tapoter toutes les deux pour cette peur d'aller aux boîtes aux lettres, moi, je vais imaginer les monstres et les terribles choses qui pourraient se cacher là-dedans. Et vraiment imaginer le pire et encore un peu plus. Et après, ce qui vous y attend réellement, ça devient du gâteau. À tester, vous nous donnerez des nouvelles.
Alors, il y a une question de Zaz. Génial d'apprendre à son corps à se lever dès que le réveil sonne. De la même manière, avez-vous une astuce pour aller me coucher dès que je suis fatiguée au lieu de traîner devant la télé?
Alors, oui. On peut aussi, surtout avec nos amis les smartphones, qui ne font pas que des distractions, qui peuvent être bien utiles aussi. Peut-être que là aussi, vous pourriez mettre une petite alarme.
Moi, je l'ai fait, ça marche pas mal.
Ben, est-ce que tu l'as fait comme j'ai raconté tout à l'heure, Marie?
Non, je laisse sonner, je l'éteins. Et...
Oui. Ah oui, c'est l'heure d'aller coucher.
Je continue.
Okay. Voilà. Ben, comme moi, je le fais avec le réveil quand il sonnait le matin. Ah ouais. Je me disais, il faut me lever, ouais, mais non, tout à l'heure. Donc,
tu mets l'alarme. Essayez. Et puis après, tu fais comme tu fais le matin,
voilà.
L'alarme sonne, tu te lèves, tu vas te coucher.
Oui, dans un premier temps d'entraînement, voilà, faites-le 4, 5, 10 fois de suite, s'il faut. Et comme ça, il y a une espèce de réflexe de Pavlov qui s'installe. Ouais. Hein. Et c'est le corps qui apprend. Plus le tapping qu'on a fait, qui aura peut-être... Et fait un effet, influencer vos cellules aussi, à ce niveau-là.
J'ai une question pour toi, Maria. Est-ce que cet exercice, est-ce qu'il faut le faire à l'heure, est-ce qu'il est important de le faire à l'heure du coucher, par exemple, ou est-ce que je peux faire ça en plein après-midi? C'est-à-dire à 4 heures l'après-midi, je fais comme si c'était le soir, je me fais une sonnerie, je vais me coucher... Hop, et puis je fais ça plusieurs fois. Est-ce que l'heure a son incidence?
Mais je ne pense pas. Peut-être que l'exercice sera encore plus puissant si vous pouvez le faire vraiment dans des conditions aussi réalistes que possible. Mais pour ma part, bon, c'était l'hiver, donc il fait nuit un peu tout le temps. Mais moi, je ne l'ai pas fait le matin à l'heure du lever. Je l'ai fait en plein après-midi, je ne sais plus à quelle heure. Et à partir du lendemain matin, paf, le programme était là.
D'accord, donc on peut vraiment le faire n'importe quand cet exercice?
Oui, je pense. Je n'ai que cette expérience-là, mais hein, en tout cas pour moi, ça n'avait pas d'importance.
Il y a une personne qui dit, alors attends, je l'ai perdue, et qui dit que pendant le tapping de tout à l'heure, elle a eu plein de raideurs dans le corps.
Oui, et je vois aussi Titi qui dit que ça a réveillé une sorte d'angoisse. Alors, comme d'habitude, si on ouvre des boîtes noires ou autres, continuez surtout à tapoter pendant ce moment de questions-réponses. Et pour Titi, Julie, elle dit « J'ai justement utilisé cette dernière technique de procrastination productive. Alors que je devrais faire mes papiers, j'ai fini par ranger la cuisine. Quel bonheur, mais malheureusement, ça ne dure pas. Je suis constamment insatisfaite. Que faire ?» Mais justement là, je pense que la procrastination, dans ce cas précis, ça cache plutôt un manque d'estime peut-être et un refus à vous faire du bien, à vous. Et constamment insatisfaite, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure. Quand c'est comme ça, faites plutôt une célébration que youpi, j'ai au moins réussi à ranger la cuisine. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait les papiers que je devais faire, mais demain est un autre jour et peut-être que je peux mettre en application certaines de ces pratiques. On vient de faire le tapping ensemble, je pense que vous avez identifié un peu d'où ça vient, Titi, tout ça. Et surtout, beaucoup de douceur et de bienveillance. Alors, pour Titi et pour d'autres, j'ai envie de donner une ordonnance.
Tu parles de douceur et tu donnes des ordres.
Ouais, ouais, c'est comme ça. Oui, mais c'est l'ordonnance douce. Hein.
Une ordonnance de douceur.
Voilà, faites-vous une liste de choses qui vous font du bien. Des petites célébrations du quotidien. De prendre un bain, de passer un coup de fil à une copine à qui vous avez envie de demander des nouvelles depuis un bon moment. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur quoi vous procrastinez aussi d'ailleurs. Allez faire un tour, juste un quart d'heure, marcher, prendre l'air, écouter de la musique, faire une danse énergétique, faire quelques rondes de FT, pourquoi pas. Et vraiment, trouver plus de satisfaction. Et quand il y a ces voix qui se réveillent, oui, d'accord, t'as rangé la cuisine, mais t'as pas fait les papiers, et c'est ça que t'avais dit, stop, allez, on arrête. J'ai plus envie de vous entendre, et oui, je suis au courant que j'ai pas fait les papiers, mais je les ferai à un autre moment. Et des tensions, oui, peut-être que ça signifie aussi des résistances, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ces croyances, cette procrastination, elle est là pour nous protéger, hein. Donc, il y a une partie de nous, un petit enfant à l'intérieur de nous peut-être, qui se réveille et qui dit « Oh là 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 là, elle va passer à l'action, elle va enfin vraiment mettre en place le régime nécessaire pour retrouver la ligne. » Et ça, on avait dit que c'était dangereux. Il y a ces programmes qui se mettent en route et ça peut, ils vont freiner des cas de fer, hein. Ils vont vraiment tout faire pour vous auto-saboter, pour saboter le projet en cours. Et ça, avec l'EFT, vous pouvez vraiment travailler là-dessus. Même si je me sens tendue quand je pense à mon projet, ça peut commencer comme ça. Hein. Et puis, petit à petit, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Si besoin est, faites quelques séances avec un praticien pour vraiment mettre à nu ces croyances qui se cachent derrière ça.
Merci beaucoup. J'ai une autre question pour toi. Lily04 qui dit « Se dire « je suis trop feignante » lorsque je dois faire quelque chose, est-ce aussi de la procrastination ? Et j'ai une autre question qui rejoint ça, c'est Anna qui la pose. J'aimerais savoir le rapport entre la procrastination et la flemme.
Mm-hmm. Oui, alors trop feignante, selon qui ? Qui c'est qui dit que vous êtes trop feignante ? Là, moi aussi j'entends un gros « je devrais ». Qui c'est qui vous a appris que vous êtes feignante ? Qu'est-ce que ça signifie d'être feignante ? En quoi c'est un problème ? Voilà le genre de questions que vous pourrez peut-être poser autour de ce problème. Parce que je suis sûre qu'il y a des moments dans votre vie où vous n'avez pas du tout été feignante. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur sûrement, qui sont très faciles, où vous êtes très efficace. Alors, quels sont les domaines où la flemme ou la feignantise se présente ? Quels sont les domaines où tout est simple, fluide? Essayez d'analyser la situation et faites de l'EFT sur ce qui sort de cette analyse.
Concrètement, ça veut dire quoi, Maria? J'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « je suis trop feignante ». Mm-hmm. Et du coup, je passe pas à l'action. Donc ça serait par exemple me rappeler mon père ou ma mère qui m'a dit que j'étais trop feignante et de faire des rondes EFT en disant même si ma mère m'a dit tu es trop feignante, je m'accepte et faire des rondes EFT avec ce matériel là, des images, si je me rappelle pas.
Mais dans ce cas-là, on peut repartir sur qu'est-ce que ça signifie pour vous maintenant d'être feignant. Parce que d'être feignant, dit comme ça, effectivement, c'est plutôt critique, c'est plutôt un jugement. Hein.
C'est ça, c'est
qu'on n'a pas envie.
Je suis trop feignante lorsque je dois faire quelque chose.
Ouais.
Et du coup, je passe pas à l'action. De toute façon, je suis trop feignante.
Ouais. Voilà. Ouais.
Donc, c'est pas la peine, c'est battu d'avance.
Oui. Ben, l'inverse de, enfin, une façon positive de formuler ça, c'est, ça peut être aussi, je sais prendre du bon temps. Quelqu'un qui peut-être que certains disent oh, elle est feignante, elle faut rien. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui disent ah, oh, elle sait vraiment se détendre. Hein. Elle sait prendre son temps. Elle sait s'occuper d'elle. Donc, est-ce qu'il y aurait un versant positif de cette feignantise? Et sinon, peut-être que ça cache effectivement une peur de passer à l'action. Il y a quelque chose qui bloque. Donc, il faut faire ce petit travail de détective et identifier les phrases à ta côté. Mais oui, on peut partir sur déjà, qu'est-ce que ça signifie? Je suis même si je suis feignante, je m'accepte là où j'en suis aujourd'hui.
Mmh. J'ai une autre question pour toi, Maria, qui est vraiment intéressante. Maria, c'est Valérie qui nous pose la question. Maria, dites-moi honnêtement, quelle expérience avec des rondes n'a pas fonctionné pour vous? Car, on l'a compris, c'est efficace, mais vous qui l'expérimentez depuis longtemps, partagez quelque chose avec nous qui n'a pas fonctionné. Enfin, si vous le voulez bien.
Mm-hmm.
Donc, tu peux très bien dire, Maria, j'ai pas envie de parler de ça.
Oui, ben, si, c'est ce que je disais aussi dans la conférence hier soir. C'est vrai que dans les démonstrations, dans ces rondes, ça a l'air toujours de fonctionner pour moi, mais c'était Jamila qui est là aussi ce soir, je crois, qui posait la question hier et qui trouvait ça un peu décourageant parce que pour elle, ça marche pas aussi vite. Donc, d'une part, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, et pour moi, et surtout avec mes clients, parce qu'on a les bénéfices partagés aussi en tant que praticien, hein, ça c'est génial. Et plus on a l'habitude de faire de l'EFT, plus ça fonctionne vite, j'ai l'impression. Et puis, il faut savoir que pour les démonstrations pendant le congrès, bien sûr, je ne vais pas aller chercher les méga monstres au fond de moi, hein. Donc, je prends des sujets plutôt légers. Hier, avec Françoise, j'étais à une intensité de 6, qui est passée à 0, effectivement, à travers le travail, qui était quand même particulièrement profond. On a vraiment fait l'exercice du début à la fin. Donc, ce n'était pas juste 2 rondes et hop, c'est parti. Mais justement, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, ce snooze du matin, là, le fait d'avoir beaucoup de mal à me lever, ça, avec l'EFT seul, je n'avais pas réussi à le régler.
C'est ça, c'est pas du tout l'EFT qui t'a permis de te libérer
non.
De ça.
Et j'avais essayé, hein. J'ai beaucoup travaillé ça avec différents praticiens, et non, ça n'avait rien fait. C'est seulement le jour où j'ai vraiment pris une décision, un jour.
Tu t'es dit, je dois.
je ne sais plus exactement ce que je me suis dit dans ma tête, mais ça serait intéressant de le retrouver, parce que ça a vraiment fonctionné. J'ai pris la décision. Et ça, Noël, toi, tu l'as cité dans beaucoup de conférences. Tant qu'on est dans le « je devrais »,« je voudrais », ce serait bon que… Ouais, ok. Mais ça reste du demain. Alors que je décide de
maintenant,
le faire.
C'est ça.
Là, il y a vraiment…
Un jour, tu l'as décidé. Tu as négocié, tu l'as décidé.
Oui. Et c'est là que j'ai pensé à cet exercice que j'avais lu une dizaine d'années, je crois, auparavant. Et il m'était jamais venu à l'esprit de le faire. Et là, je me suis dit « allez, j'essaye ». Et ça a fonctionné.
Oui.
Mais avec l'EFT, je n'avais pas eu ce problème. Je n'avais pas réussi à régler ce problème-là. Et j'en ai bien d'autres, Valia. Il y en a d'autres.
Moi, je vais citer Louis Gervais pour quelque chose qui... Louis Gervais, c'est une des pionnières qui a amené ça... qui a amené l'EFT en France. C'est encore un de mes grands mentors. Je l'adore. Et si elle nous écoute ce soir, je l'embrasse très fort. Louis Gervais, elle s'est libérée de milliers de choses avec l'EFT, sauf de sa phobie des araignées. Ça, elle a pu le libérer avec une autre technique de psychologie énergétique, mais qui n'est pas du tout l'EFT. Moi, je peux aussi témoigner, j'avais une tristesse profonde, permanente, à l'intérieur de moi. Et j'avais même l'impression que j'étais née avec, tellement je ne me rappelais pas d'expérience sans avoir cette tristesse à l'intérieur de moi. Et puis, j'ai rencontré l'EFT, je me suis libérée de plein de choses avec l'EFT, et cette tristesse ne passait pas. Elle s'atténuait un peu, hop, elle revenait quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, mais c'était une sensation de fond. Et ça, avec l'EFT, ça passait pas. Parfois, ça arrivait à l'atténuer, mais c'est tout. Et je me suis libérée de ça avec une autre technique de psychologie énergétique, et ce n'était pas de l'EFT. Et on pourrait citer encore d'autres exemples. Bon, c'est pas... Voilà. L'EFT, c'est pas la technique qui marche sur tout. C'est une technique merveilleuse qui marche sur énormément de choses. Et l'idée, c'est de vous dire, essayez-le, mais avec suffisamment de persévérance pour être sûr que cette technique ne marche pas quand vous n'obtenez pas de résultat. Est-ce que tu as relevé d'autres questions, Maria?
Oui, il y en a plein. Alors, je vois quelqu'un qui cite la question de Fred qui dit qu'il est toujours en retard. Est-ce de la procrastination? Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que la question est posée. Mais oui, le fait d'être en retard, d'une part, c'est une conséquence de la procrastination parce que à force de remettre à plus tard, tout d'un coup, c'est la dernière minute, il faut passer à l'action et si ça prend une minute de plus que prévu, eh ben on est en retard. Et le fait de se mettre tout le temps en retard aussi, ça peut être d'une part donc une forme de rébellion pour cet enfant intérieur qui a un peu envie de se faire remarquer peut-être. C'est une façon d'attirer l'attention, mais c'est aussi une forme d'auto-sabotage. Parce que, bon, être en retard, la plupart du temps, ça passe, mais ça finit toujours par coûter quelque chose. Parfois, ça coûte l'argent. Par exemple, être en retard pour la déclaration d'impôt, ben, on a une indemnité, on a des pénalités. Mais là-dessus, j'ai quand même envie de partager que, comme j'ai toujours quelques tendances à la procrastination, hein, je me soigne, mais je ne suis pas totalement guérie. Et il y a quelques mois, je savais que je devais partir aux États-Unis. Et pour une fois, j'ai vraiment pris mon billet d'avion bien à l'avance. J'étais contente, j'ai eu un bon tarif, j'étais fière de moi. Et paf, le lendemain matin, j'ai reçu un mail d'Air France comme quoi j'avais une tonne de miles, de points fidélité chez eux, et que j'aurais pu avoir le billet encore moins cher. Et là, j'ai vraiment dit, oh, j'avais raison, c'est dangereux de faire les choses trop à l'avance. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même pu utiliser mes miles pour un prochain voyage, donc rien n'était perdu. Mais sur le moment, là, je me suis vraiment dit, oh, l'univers ne me récompense pas pour cet acte si noble. Mais voilà, à vous de voir, le fait de se mettre en retard, oui. C'est peut-être une mauvaise estimation aussi du temps que va prendre tel ou tel acte. Alors, je peux vous dire que depuis que j'ai des enfants, quand j'ai eu ma fille en premier, j'ai dû apprendre d'ajouter au moins un quart d'heure à tous mes rendez-vous. Parce que sortir toute seule ou sortir avec un bébé, avec la poussette, avec tout ce qu'il faut penser à amener et patati patata, installer dans la voiture, tout ça, bon, ça prend au moins un quart d'heure de plus. Et 3 ans plus tard, j'en ai eu un deuxième et il a fallu passer à une demi-heure de plus. Donc, soyez réalistes. Et parfois, on peut avoir recours à des ruses comme faire avancer l'horloge.
Ce qui est intéressant...
En tout cas, acceptez votre façon d'estimer le temps.
Oui, il peut y avoir vraiment un problème dans l'estimation du temps que ça va prendre. Moi, j'ai un peu ce problème parfois. Je me dis, ça va prendre 1 heure, puis ça en prend 4. Mes amis le savent, de temps en temps, ils me reprennent en me disant, mais non, dis pas que t'en as pour 1 heure, t'en as au moins pour 3 heures.
Et en fait, ils te donnent rendez-vous à 19h et eux-mêmes, ils arrivent à 20h.
Mais ça fait aussi penser au message contraignant du dépêche-toi. C'est un message qu'on donne aux enfants quand on leur dit en permanence de se dépêcher. Et ce message, après, en étant adulte, on va se débrouiller pour être tout le temps dans la perspective d'avoir à répondre à ce message. Et donc, en tant qu'adulte, ça donne des personnes qui surbookent leur agenda et qui vont se dépêcher. Le principal étant de répondre au message. Donc, si il faut répondre au message « dépêche-toi », on va tout le temps se débrouiller pour être en train de répondre à ces messages. Mmh. Et ce sont des gens qui sont souvent en retard parce qu'ils se dépêchent, mais ils se ratent, régulièrement ils se ratent.
Oui. Oui, donc, et voilà. Peut-être à force de s'entendre dire « dépêche-toi, vas-y, dépêche-toi, c'est l'heure ». En fait, on n'a jamais appris aussi soi-même de sentir quand est-ce qu'il faut y aller. On attend qu'il y ait ces signaux qui arrivent, que quelqu'un nous dise « vas-y, dépêche-toi, t'es en retard ».
Et une astuce pour les praticiens, avec vos clients, dites-leur régulièrement « prenez tout votre temps ». Et vous remarquerez à quel point ça détend les gens. Vous avez votre temps, prenez votre temps. Parce que, voilà, on est en train de fabriquer des générations entières de gens en dépêche-toi.
Oui.
Pendant que tu regardes les questions dans le chat, je vais répondre, alors je les ai un peu perdues, mais je vais répondre quelles sont les autres techniques psycho-énergétiques qui nous ont aidé à nous libérer d'autres choses.
Tu disais pour Louise qu'elle avait utilisé une autre technique.
Elle a utilisé une autre technique, ça s'appelle la TAT, tapas, acupressure. Technique. Je vous laisserai de taper dans le Google pour aller vous renseigner sur cette technique. Il existe le Zensight, je vais taper en même temps la TAT, TAT, tapas, je crois que ça s'écrit comme ça.
Comme les tapas.
Tapas.
Mais c'est un nom propre.
C'est son prénom, tapas, acupressure technique. Et puis le Zen Sight, qui veut dire vision zen. Aujourd'hui, il existe d'autres techniques c'est laquelle que j'oublie, le Zen Sight, la TAT. À l'époque, c'est tout ce qu'on avait en plus. En tout cas, pour moi, ce qui a marché, c'est la TAT.
Ok. Il y a aussi, justement, on parlait du fait que ça peut venir de ces messages contraignants qui sont installés dans la petite enfance. Pour ça, on peut utiliser le Matrix Reimprinting.
Alors, le Matrix Reimprinting, Matrix
que tu pratiques, que Steve pratique, que beaucoup
d'intervenants
utilisent.
C'est une technique de EFT un peu poussée. Donc, pour pouvoir aller apprendre cette technique, il faut avoir fait au moins le niveau 1 et le niveau 2. Avoir déjà beaucoup pratiqué de EFT pour pouvoir ensuite bénéficier de cet enseignement qui est une pratique du EFT un peu particulière. C'est Carl Lawson qui a développé cette façon de travailler en EFT. C'est très efficace, je m'en sers beaucoup, mais déjà le EFT classique, seul, on peut vraiment faire du très très bon travail.
Mmh. Alors, je vois Loli et aussi Yves qui se posaient la question « Bon nombre de rondes sur le négatif, puis l'objectif positif d'évolution. » Ah oui, d'accord. Est-ce que le nombre est fixe ? Non, non. Le nombre, Loli, n'est pas fixe. En général, le processus à respecter, c'est de travailler d'abord le négatif, de dire des phrases qui parle de problème en fait. Négatif, positif, c'est un peu chargé comme phrase, mais de parler du problème, donc on va dire des phrases, moi je les appelle burp, c'est mon terme technique à moi, parce que si on ne nettoie pas d'abord le négatif, si on s'installe trop tôt le positif, c'est comme de mettre une grosse couverture rose sur un tas de fumier. Ça sera peut-être beau un certain temps, mais en tout cas, ça pue. Et il faut être vigilant avec ça, je pense. On a parfois peur de dire ces phrases négatives. La question de Is, c'était est-ce qu'on ne va pas renforcer le négatif ? Non, parce que vous êtes en train de stimuler les points d'acupuncture en même temps. Et ça va permettre de défaire, au contraire, ce nœud d'émotions négatives. Je crois que ça a été dit dans une conférence il y a quelques années. Il y avait l'exemple, si vous devez laver une casserole, il faut quand même regarder où est la saleté. Ça ne sert à rien de fermer les yeux et de laver la casserole grossièrement et de dire « Oh non, non, ça y est, elle est propre !» et la ranger dans le placard. Il vaut mieux nettoyer d'abord. Après, vous pouvez toujours astiquer, mettre des produits pour que ça brille, mais si ce n'est pas propre au départ, ça ne sert à rien. Alors, Titi, que faire quand on est insatisfaite perpétuellement? Ben voilà, l'ordonnance, aimez-vous, trouvez des célébrations, trouvez des petits trésors dans une boîte. Et Cariole a posé une question semblable. Quand on renonce à faire tout ce qui nous fait plaisir et tout ce qui nous fait du bien, est-ce de la procrastination ou autre chose? C'est une forme de procrastination, certes, mais là, je crois que effectivement, c'est plutôt ce manque d'amour pour soi, de se refuser tout ce qui fait du bien. Peut-être qu'il peut y avoir la croyance que me faire du bien, c'est égoïste. Prendre soin de moi, c'est du luxe. Pourquoi moi, j'aurais droit d'aller au Qigong alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas cette possibilité? Si c'est ce genre de croyance qui est derrière, travaillez-les avec EFT. Et là aussi, mettez votre casquette de détective, essayez de voir quelles sont les situations qui déclenchent ce comportement. Pourquoi c'est facile pour certaines choses et difficile pour d'autres?
Comment s'appelle le docteur Amen?
Le docteur Amen, il s'appelle Amen comme Amen à l'église, et son prénom Daniel. Malheureusement, ses livres merveilleux ne sont pas encore traduits en français. Et cette semaine, j'en ai un peu autre chose à faire, mais qui sait, peut-être que je vais m'y atteler. Donc, c'est docteur Daniel Amen.
Voilà, je viens de le mettre dans le chat.
Oui, et il a énormément de vidéos sur YouTube si vous ne voulez pas tout de suite acheter les livres. Et il a fait un travail merveilleux sur le fonctionnement du cerveau, qui est vraiment impressionnant.
Ah, je vais répondre à Jackie pendant que tu regardes le chat. Jackie dit, et la technique de Sophie Merle, le tap-tap commande dans les techniques autres de psychologie énergétique? Et évidemment, je l'avais oublié celle-ci.
Oui, aussi.
Je me suis libérée d'une peur de parler en public qui me restait grâce à ce tap-tap commande. En fait, pour faire bref, j'avais beaucoup travaillé sur la peur de parler en public, et ceux qui vont acheter les différents packs des différentes années pourront admirer la progression de mes interventions. Et j'étais vraiment pétrifiée à l'idée de parler en public, même derrière un micro et pour les conférences. Et je m'étais libérée d'un gros morceau avec l'EFT, mais il restait quand même quelque chose. Et dès qu'il y avait plus de 30 personnes, je refusais d'aller faire des conférences, j'avais trop peur. Et l'EFT, ça, j'arrivais pas à libérer ce qui restait avec. Et c'est grâce à la technique de Sophie Je Commande que j'ai pu me libérer de ça. Et d'ailleurs, si vous tapez Sophie Merle Je Commande, et mon nom peut-être, Sophie Merle et Noël Cassan, cette séance a été filmée. Et vous pourrez voir comment Sophie œuvre pour libérer avec cette technique. Et Sophie viendra parler de l'EFT. C'est une grande première, une des pionnières de l'EFT en France. Et aujourd'hui, voilà, elle a créé ce procédé, Je Commande, qui est un procédé de libération quantique. Mmh.
Alors, je vois. Je ne sais qui procrastine surtout beaucoup pour faire le ménage et pour faire le tri dans ses affaires parce qu'elle n'arrive pas à prendre les décisions. Ça, c'était l'une des phrases que j'ai mis dans le protocole tout à l'heure. J'ai peur de prendre des décisions, je ne prends jamais les bonnes décisions. Voilà de quoi se départir. Et j'ai eu, il y a quelques années, à déménager d'une maison qui faisait 300 mètres carrés dans une autre qui en fait 90. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'affaires dans la grande maison. Et j'ai une amie qui m'a dit, ah, c'est super, tu vas pouvoir te poser la question pour une chose sur trois, garder ou grandir. Et mon Dieu, ce que j'ai grandi, parce qu'il a fallu se débarrasser et se séparer de beaucoup de choses. Donc peut-être qu'il y a une forme de peur de séparation derrière ça, une peur de manquer aussi. Ça pourrait me manquer plus tard, je pourrais en avoir besoin. Et tout ça, ce sont des peurs qui peuvent se travailler. Oui, voilà, je le vois là, c'est beau, 256. De quoi je dois me départir et qu'est-ce que je dois garder? Voilà, donc peut-être que ça peut vous aider aussi cette phrase. Pour moi, ça a été une révélation, garder ou grandir. Parce que prendre le choix de se séparer ou faire recycler ou circuler quelque chose dont on n'avait plus besoin, c'est vrai que ça allège, ça soulage, ça libère et ça peut faire grandir. C'est Louise Gervais aussi qui dit « Poursuis ton évolution ». pour des objets qui ont besoin de passer à une nouvelle vie, à un nouveau contexte de vie.
Oui. Voilà.
Ils ont fait leur chemin avec vous et ils vont poursuivre leur évolution ailleurs.
En fait, rien ne se perd, tout reste sur la planète, rien ne disparaît, tout se transforme. Et une chaise qui est en bois, ce bois, il va être brûlé ou il va pourrir, de toute façon, il ne va pas ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs, tout reste là. Mais chaque chose poursuit son évolution, alors hop, elle dit, poursuit ton évolution.
C'est ça. Ok. J'ai l'impression de n'avoir que des obligations. Ah oui, ça c'était Fred avec le fait d'être en retard, même dans les moments de plaisir. Oui, ben c'est vrai que nous avons des vies hyperactives pour beaucoup. Alors là aussi, Fred, essayez de trouver ne serait-ce que 5 minutes pour faire une relaxation, pour faire quelques rondes de tapping peut-être. Et juste pour souffler, lire quelques pages, boire un thé. Et petit à petit, bon, quand on est parent, je vois beaucoup parler d'enfants dans ce commentaire-là. Quand on est parent, c'est sûr que on a des obligations en plus et les enfants passent avant. Hein. Mais trouvez aussi de la place pour vous. Et c'est le témoignage de Lies qui, elle, a dû attendre le départ des enfants pour enfin pouvoir prendre des cours de salsa. Elle dit que c'est le bonheur intégral. Bravo Lies. Mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'attendre que les enfants partent ou la retraite pour se faire plaisir et pour se faire du bien. Parce qu'en fait, ça nous rend beaucoup plus disponibles aussi pour les enfants et pour d'autres. Et à partir d'un certain âge, vous voyez, avec vos enfants, mais à un moment donné, en tout cas, ils peuvent très bien comprendre, et là je parle même de 3, 4, 5 ans, ils peuvent même comprendre que, ok, là c'est un moment pour maman, elle a besoin de faire sa sieste un quart d'heure, je ne dois vraiment pas la déranger, je vais rester avec mon dessin, être tranquille.
Pour ça, il faut qu'ils soient bien nourris avant les enfants.
Oui, et ne demandez pas à faire la sieste quand ils viennent de rentrer de la journée d'école ou de crèche et qu'ils sont crevés, fatigués, affamés.
Ça marche mieux quand ils sont bien nourris.
Voilà.
Après, ils sont d'accord pour laisser un peu plus d'espace. Mm.
Alors, il y a beaucoup de questions. Tu en vois d'autres, Noël, qui sont vraiment en rapport avec le sujet, parce qu'il y en a qui sortent un peu du cadre.
Il y a... je cherche son pseudo, mais en fait, est-ce que tu aurais, en résumé, quelques clés pour combattre la procrastination?
Oui, j'en ai donné tout à l'heure. Alors, une que je n'ai pas eu le temps de...
Est-ce que tu peux les redonner d'une façon plus... Justement, pour faire un espèce de résumé et se recentrer sur sur le sujet de la procrastination.
Tout à fait. Alors, ben, d'une part, là, elle apparaît vraiment à travers vos questions. Aimez-vous. Mettez de la douceur. Pardonnez-vous si vous n'arrivez pas à tout faire. Et essayez d'être plus réaliste avec ce que vous vous imposez comme contrainte aussi. Une astuce pratique pour ça, que j'ai pas mentionné tout à l'heure, ça peut être de ne fixer que, attention, je sais que ça va pas vous plaire, ne fixer que 3 choses à faire dans la journée. Et non, finir toute ma to-do list, ça compte pas comme une chose. Désolée, Noël. Mmh.
J'ai essayé, ouais.
Je t'ai vu venir.
Hein. Ouais, j'ai essayé, mais non.
Voilà, choisissez vraiment 3 actions concrètes. Parce que comme ça, vous allez nourrir votre estime de vous. Parce que 3 choses, vous pouvez y arriver. Et si vraiment vous êtes dans cette insatisfaction, dans cette autoflagellation de « Ah, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, pas pour moi », mettez vraiment 3 petites choses. Et peut-être que vous aurez fini à midi. Et il reste tout l'après-midi pour faire des actions bonus, ou pour aller vous promener, ou pour faire un sieste. Donc, fixer la barre, c'est pas une question de fixer la barre bas, histoire de pouvoir la dépasser, mais arrêtez de vous mettre des objectifs impossibles. Ça, c'est vraiment fatal pour votre estime de vous. Parce que vous ne pouvez jamais y arriver. Et ça ajoute cette culpabilité, cette lourdeur en plus, qui va vous bouffer votre énergie. Alors, je vois Chris qui dit « Le sujet de ce soir m'a déclenché des tensions, trapèzes, douleurs et bras. Pourquoi ?» Alors, voyez pour vous, qu'est-ce que ça représente ces lieux, ces endroits-là? On ne se connaît pas, j'ai pas tous les détails. Donc, est-ce que ça réveille une ancienne blessure? Est-ce que ça réveille quelque chose qui aurait été accidenté? Est-ce qu'il y a des images qui parlent de ça? Les bras m'en tombent. Ne pas... non, baisser les bras. Ne pas arriver à lever le bras. Les bras, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'action. Donc, c'est peut-être pas un hasard complet que ça se manifeste là. Mais là, il faudrait avoir en plus d'éléments pour avoir quel est le lien exact avec vous. Parfois, il peut y avoir des douleurs qui se réveillent comme ça parce que justement, ça rappelle un accident. Et c'est peut-être cet accident qui a mis en place la programmation que plus jamais cette action-là, parce que ça peut vouloir dire accident. Et oui, il y a plusieurs questions sur la gestion du temps. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la gestion du temps et la procrastination? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être une mauvaise estimation du temps que vont prendre telle ou telle tâche. Mais c'est surtout cette tendance qu'on a quand on procrastine à s'ajouter des tâches qui n'étaient pas du tout prévues. Et là, une autre astuce pratique que j'avais déjà partagée l'année dernière, je crois, c'est de faire, si ça vous aide, de faire votre liste de choses à faire. Mais à la fin de la journée, prenez cette liste et pensez à ajouter tout ce que vous avez fait pendant la journée et qui n'était pas sur la liste, en fait. Parce que peut-être que vous aviez vos trois éléments et vous en avez fait 10 autres. Et bah, la somme, c'est pas zéro. Donc, vous n'êtes pas nul.
J'ai beaucoup un exercice que tu m'as donné, Maria. C'est plutôt que de faire une liste. Hein, je faisais une liste des choses que j'avais à faire, comme la liste des courses. Et après, je barrais ce que j'avais fait. Et effectivement, je me suis mis à rajouter sur la liste des choses que je venais de faire qui n'étaient pas sur la liste. Mais ça me faisait plaisir. Je les rajoutais et je les barrais. Et puis, tu m'as donné une astuce que j'applique et que je trouve encore meilleure, c'est avec des post-it. Alors, c'est pas forcément très écologiste, parce qu'au début, je me disais, oh là là, ça gaspille des post-it. Mais je l'ai faite, et j'ai trouvé ça encore plus efficace. Mm. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots?
Oui, tout à fait. C'est l'astuce de marquer effectivement ce que vous avez à faire plutôt sur des post-it. Donc, un post-it, une action. Oui, désolé pour les arbres. Vous pouvez les découper pour faire des tout petits post-it d'un seul grand.
Ou des petits papiers, oui.
Oui, voilà. À l'avantage des post-it, c'est qu'on peut les coller sur des feuilles, on peut les coller sur une feuille pour ce qui concerne la maison, une autre pour la famille, une autre pour l'administratif. Bon, ça, c'est du détail. L'idée, en tout cas, c'est d'avoir un post-it, une action, ou un papier, un petit papier, une action, et une fois que c'est fait, on le froisse et on le jette, ou alors on le met dans un bocal en verre sur son bureau et on regarde ce bocal qui se remplit. Et ça montre vraiment, ça donne cette satisfaction justement, Titi, vous parlez de insatisfaction. Ben là, vous verrez quand même un post-it de froissé dans la boîte, dans le bocal, et vous pourrez vous faire une tape sur l'épaule en disant, ouais, bon, au moins j'ai accompli ça. Donc ça, c'est une façon de concrétiser les choses.
C'est très aidant, ouais.
Ouais, c'est très aidant. Mais pensez à marquer tous les petits imprévus qui sont venus perturber votre journée, peut-être. Ça, c'est vraiment important.
J'ai une question pour toi, Maria. Il y a Minnie, et je me permets de la poser là, parce que ça fait plusieurs fois que je la vois, il n'y a pas que Minnie qui a posé cette question. Et je la trouve tellement essentielle. Comment ne pas transmettre notre procrastination à nos enfants? Que dire à la place de « dépêche-toi ».
Alors, celle-là, la solution clé, je ne l'ai pas, je la cherche aussi et je m'attrape régulièrement en train de dire non, il ne faut pas le dire. Donc, peut-être qu'une façon de faire, c'est de, dans un moment calme, donc là non plus, pas quand il reste 5 minutes avant le bus pour aller à l'école et que personne n'est prêt, mais dans un moment de calme, peut-être en vous promenant le dimanche après-midi, essayez d'expliquer à votre enfant pourquoi c'est important. Essayez de lui faire prendre conscience que ça ne soit pas vécu uniquement comme une contrainte externe. Et là aussi, Très tôt, vous pouvez prendre l'habitude de parler à vos enfants, même bébé ou tout petit, expliquer ce que vous êtes en train de faire, expliquer pourquoi il faut partir maintenant, sans faire des discours, sans faire un discours magistral dans l'entrée de la maison en mettant le blouson, mais essayez de peut-être montrer l'enjeu derrière, essayez de trouver un petit jeu avec ça. Mon fils qui a souvent beaucoup de mal à se mettre à faire les devoirs, des fois je lui lance des défis, je lui dis allez, je suis sûre que tu peux le faire en 15 minutes et on met un minuteur et il est là, il guette le minuteur et il est super fier quand il a fini au bout de 10 minutes. Donc ça peut être des astuces. Et dans mon cas, en tout cas, je pense qu'on a dû beaucoup me dire « dépêche-toi, dépêche-toi » quand j'étais petite. Donc, le fait de le travailler chez moi, je pense que ça va, en partie en tout cas, m'empêcher de continuer à le transmettre.
Ce qui peut être intéressant aussi avec les enfants, c'est de les prévenir plusieurs fois. Alors là, ça demande du temps aux parents, mais
oui.
D'essayer aussi de dire à l'enfant « on va partir dans 20 minutes, puis on va partir dans 5 minutes ». Puis, ou voilà, on va partir dans 15 minutes, on va partir dans 10 minutes. Commence-toi à te préparer parce qu'on part dans 5 minutes. Et aussi, j'avais discuté avec une spécialiste des enfants qui disait, un enfant, quand il a pris l'habitude que le parent répète 3 fois, il va attendre la 3e fois avant de se mettre à l'action. Mais si le parent pose la limite et explique une bonne fois pour toutes à l'enfant, je ne te le dirai maintenant qu'une fois, et faire en sorte de ne le dire qu'une fois, l'enfant va prendre l'habitude que ce n'est dit qu'une fois et réagir à la première fois. Donc, regardez ce que vous pouvez faire avec ça. C'est pas évident à mettre en place, bien sûr, mais c'est comme tout conditionnement, on peut arriver à les changer et à faire les choses un peu différemment. Mais c'est sûr qu'un enfant qui a pris l'habitude que maman elle le dit 4 fois, alors qu'il attendra la 4e.
Oui. Oui, voilà, c'est bien d'expliquer, de donner progressivement, parce que c'est vrai que l'enfant, il est dans son monde, il est en train de jouer, il vit vraiment le moment présent. Et c'est plutôt une bonne chose, il paraît. Mais quand c'est l'heure de partir, ça peut être compliqué. Mais en même temps, il faut lui donner les moyens de prendre ses propres responsabilités. Donc peut-être faire ensemble la liste des choses qu'il faut faire. Donc quand je te dis que c'est l'heure d'aller t'habiller pour aller à l'école, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et on le fait ensemble. Vous écrivez pour lui s'il ne sait pas encore écrire, ou il se l'écrit lui-même. Et ça peut être une bonne façon de faire entrer les choses aussi. Et après, vous le lâchez. Vous le laissez se débrouiller avec ça. Prendre ses responsabilités aussi. Et il va y avoir quelques ratés et malheureusement c'est vous que la maîtresse va gronder hein, et pas votre enfant. Mais à la longue, je pense que c'est plutôt une bonne façon de faire.
Je vois l'heure qui tourne, Maria.
Oui, mais oui, on va être en retard, hein. C'est terrible.
Mais être en retard n'est pas procrastiner. Procrastiner, c'est vraiment,
oui,
je pourrais faire cette chose-là maintenant et je ne le fais pas, je le reporte à plus tard. Jusqu'à ce que ce soit le dernier moment, que je me rate ou que ce soit mal fait.
Oui.
La procrastination, c'est vraiment, je peux le faire maintenant, mais non, je ne le fais pas.
Alors, Fred marque dans le chat, très fier d'avoir participé à cette conférence.
Mais oui,
bravo Fred. Et tout aussi champion de la procrastination que vous êtes tous dans le chat, dites-vous que vous n'êtes pas les pires. Parce que les pires procrastinateurs, ils ne sont même pas là.
Ils ont raté la conférence. Ils pourraient être là, mais ils ne sont pas venus.
Non, ils ont trouvé des bonnes raisons pour ne pas venir.
Est-ce que tu vois une autre question, Maria?
Ben, j'en vois plein et je crois que
la dernière,
il va falloir continuer.
Tu continueras sur ta page de réécoute?
Oui, alors la dernière, ça sera Jetaco. Très dur de définir les priorités, du coup je papillonne partout et au final n'arrive à rien. Tous les retards s'accumulent désespérément. Alors oui, ça c'est ce phénomène de distraction dont je parlais tout à l'heure et c'est vraiment quelque chose qui est favorisé par le bombardement d'informations auquel on est exposé. Hein. Donc oui, je vais m'y mettre, mais d'abord 5 minutes sur Facebook et oups, ça devient une demi-heure. Et puis non, maintenant j'arrête Facebook, je m'y mets vraiment, ah j'ai reçu des mails, je vais aller voir. et puis le téléphone qui bip, et ceci et cela, et wouh, la journée passe en vitesse folle. Donc vraiment, partez en croisade contre ces distractions. Et puis pour vous être à cause, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que définir les priorités, oui, c'est une chose, mais est-ce que vous avez défini l'objectif plus loin? Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous savez où vous allez? Parce que si on a déjà un objectif, une destination, on se laisse beaucoup moins dévier en fait par les petits cailloux sur la route qui peuvent se présenter à nous. Donc le fait de papillonner comme ça, c'est peut-être parce que rien n'est vraiment votre passion, rien n'est vraiment ce que vous avez envie de faire, votre mission, et peut-être que ça passera par là. Je sais que quand j'ai monté le tout premier congrès EFT en 2011, même ma coach à l'époque me disait « Non, c'est trop court, tu ne vas pas y arriver, fais-le après l'été. » Moi, je devais être un peu têtue à l'époque parce que je me suis dit « Non, de commencer ça maintenant pour le mois de juin, non, c'est possible, je peux le faire. » Et là, je peux vous dire, je n'ai pas procrastiné une minute. Là, j'étais tac, une chose après l'autre, tout le temps dans l'action juste, parce que j'avais un but. J'avais vraiment un but qui me passionnait, qui me tenait à cœur. Et je l'ai fait. Mm-hmm. Et elle était très fière de moi, d'ailleurs.
Mm-hmm. C'est ça, on a plus de ressources et plus de discipline qu'on ne le soupçonne, parfois. Mm. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, Maria, pour ce soir.
Oui,
on pourrait parler des heures.
Dans la page de réécoute.
Merci infiniment. Si vous comptez vous procurer un pack, sachez que nous avons des courbes qui démontrent que les gens achètent au dernier moment.
Serait une forme de procrastination.
Je pense que c'est une forme de procrastination. C'est un peu comme la dernière. C'est comme un peu faire la déclaration de revenus au dernier moment. Mmh. Les prix qui sont affichés sont des prix promotionnels pendant le congrès. Ces prix seront maintenus jusqu'à mercredi soir. Jeudi, préparez votre soirée. On est en train de monter la soirée de gala. Donc, il y aura une soirée supplémentaire en direct avec des experts.
Mais ils vont augmenter et on reçoit tous les ans des emails. « Oh, mais j'étais partie en week-end, je ne savais pas, vous ne me l'aviez pas dit. » Voilà, on vous l'a dit.
Dès que ce congrès va se terminer, c'est-à-dire jeudi soir après la soirée de gala, les prix vont augmenter. Ça sera toujours à votre disposition et vous pourrez toujours les acheter, mais avec un prix légèrement plus fort. Donc, mesdames, messieurs, passage à l'action.
Merci.
Ah bah, la procrastination. Je vais faire un slogan, Marie.
Ouais, vas-y.
Je ne me rappelle plus.
À bas la procrastination.
Mesdames, messieurs, passez à l'action. À bas la procrastination.
Oui.
On se retrouve demain.
Demain,
19h. 19h pour la conférence
de Caroline Burel. Que faire quand ils ne veulent pas tapoter? Suivi de Caroline Dubois. Demain, c'est la fête des Carolines. Sur l'âme de l'argent.
Formidable. On se retrouve demain, 19h.
Merci à tous, merci beaucoup pour votre écoute et pour tous vos partages. On se retrouve dans la page de réécoute.
Alors, si peu. Gisèle, la page de réécoute, c'est exactement ici. Il faut rafraîchir la page d'ici 30 minutes, le temps que webmaster Bertrand Magnifique fasse toutes les manips pour retransformer cette page.
De jouer avec les cochons. Et qu'ils se mettent à la page de réécoute. Mais bon, pour ça, il faut déjà qu'on termine la conférence.
Donc, c'est la même page. C'est ici, juste un petit peu plus tard, le temps que Bertrand fasse la manip pour mettre la réécoute. Donc, d'ici 30 minutes, maximum, ça sera fait.
Et grand merci à Bertrand et Christelle et Samia et Mathilde et toute l'équipe qui nous soutiennent. C'est vraiment génial. Merci d'être là.
Merci à vous tous. À demain. Et en attendant,
tapotez-vous bien. Merci.